Quelle hygiène de vie de fou! Café, eau minérale, eau du robinet même d'ailleurs. Impeccable. Je crois que c'est l'influence de Tonton. Quelle hygiène de vie de fou! Tonton qu'on a reçu hier soir dans Simple, on s'est régalé. Comment ça va vous? Comment ça un train de la hype? C'est impossible, on vient de lancer ce stream. Fake news, comme dirait l'autre. Comment ça va? Merci beaucoup d'être là, de bon matin. Voilà. Les enrichissements de questions pour un champion sont passés. Ça m'a pas mal occupé ces deux dernières semaines. Ce qui veut dire que les streams du soir de rattrapage des journaux du matin, non, on va les lire le matin, comme d'habitude. Et on est parti pour au moins trois semaines tranquilles de revue de presse tous les matins à l'ancienne. Voilà, pour ceux qui aiment bien le soir, il y a le replay, il n'y a pas de souci. Et de l'hebdo Étienne et du Simplay. On va y revenir sur le Simplay d'hier soir parce que j'ai bien aimé cette émission avec Tonton, c'était bien cool. Voilà. Attends, après, j'ai très envie de tout envoyer valser pour devenir un gamer et passer des nuits blanches sur notamment The Witcher 3, mais... On peut pas tout faire. J'ai pas beaucoup dormi, je suis là pour diverses raisons, mais mon ami, le café est là et puis vous êtes là surtout. Je remercie Tulkas pour ce 8e mois d'abonnement, Nekoms pour le 13e mois d'abonnement, Landernis pour ce 3e mois, Mats974 pour le 17e mois, c'est énorme, Kiripux pour ces 2 ans déjà ensemble. Merci beaucoup, Sido775 pour le 25e mois. Certains me parlent de l'hebdo Étienne, on va en parler bien sûr de l'hebdo de vendredi dernier. 25 mois, on est au maxi, Sido, on peut pas être au-delà. Voilà. Cronvoi, merci beaucoup pour le soutien, Mepere pour le Prime, Anna Bananas pour le 25e mois également. Merci pour cette pluie de subs très rafraîchissante. Silver Pingouin, merci pour ce 8e mois d'abonnement. Et le message, les Rennais, les Bretons, c'est là, le train de la hype. Hop, vous l'avez réussi. Merci Choup, Sushi Poops, comment vas-tu de Rennes, 23e mois d'abonnement, qui vient chercher un petit peu de douceur et de café dans ce monde de route qui me fait bien plaisir. Pour le café, j'y suis. Pour la douceur, je sais pas. J'ai quelques infos positives ce matin. Ouais, notamment en matière de santé, notamment. Aline 41, merci pour le 8e mois. Superpool, merci pour le 11e mois. RWP Yodix, merci pour le soutien. Angel pour le soutien. Neortic pour le Prime, le Popote. Bardamu, AEG Chipolata, j'adore. C'est Chipolatata même, pardon. Et les Poulpix et les Jeff et les Bages, vous êtes formidables. Et puis à l'instant, Tompe75, merci beaucoup pour ce 4e mois. Mon gâtre, les habitués sont là pour le 22e mois. Je suis très heureux de vous retrouver. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'on a un petit peu de débriefing à faire, comme le dit Remake à l'instant dans le chat. On a l'hebdo Étienne de vendredi. On a le GP. J'ai pas encore enlevé mes bracelets. Tant qu'ils tiennent, je me douche pas. Donc on m'a dit que ça pouvait tenir... 2 ans, j'ai encore mes bracelets du GP Explorer. Il faut voir que je les coupe, on voit. Sinon, en termes d'hygiène, ça a posé des problèmes. Et puis, on a le Simplay. On a beaucoup de... Oh, on va faire un petit débrief d'une demi-heure, tranquille. Merci beaucoup, Eto Cello, pour ce 25e mois. Tu es au maximum. La Diva Créole, merci pour ce 25e mois. Tu es au maximum. Pauline, merci beaucoup pour ce 24e mois d'abonnement. C'est adorable. Vous êtes... Pas de douche, un vrai gamer maintenant. Mais si seulement... Bien sûr que le replay de Simplay sera dispo sur YouTube. Matt, a priori, normalement... Mathieu doit mettre ça en replay sur YouTube dès aujourd'hui, ce lundi, dès 13h. Tu devrais l'avoir aujourd'hui gratuitement sur YouTube, donc dès 13h. Ok, Albatros, rentrée retardée donc pour toi. Merci Kitty Cat à l'instant pour le 22e mois d'abonnement. Merci Nabazor pour ce Prime. Allez, je vous lis un petit peu. Ça fait quoi? On peut commencer par ça d'ailleurs. Captain McBurning dit ça fait quoi la vue de là-haut quand on est grand en fait? Bon, ça c'est un truc qui m'a bien fait rire. Donc j'ai eu la chance d'être invité au GP Explorer, voilà. C'était un bon moment, voilà. Et à un moment, je poste sur les réseaux sociaux une vidéo que voici, hein, qui était bien, qui était drôle d'ailleurs, hop, que voici, tac. Donc là, on est au GP. En fait, avant de partir avec Joe, parce que j'en étais tous les deux là-bas, je voulais montrer un peu une image de la foule. 60 000 personnes physiquement présentes sur place, des gradins, parce que moi j'étais un peu au ras de la piste, et je me suis dit, il faut qu'on montre aux gens en fait l'effervescence, ce que c'est quoi. Et l'ambiance très chill d'ailleurs, 60 000 personnes, mais c'était très apaisé, très calme. Après, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est autre chose après, mais ça c'est autre chose. Et donc j'ai posté cette vidéo. Alors les gens scandent mon nom, alors. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est-à-dire que les gens sont là depuis le matin, parfois très très tôt le matin, hein, et à un moment, ils attendent. Et puis, il se passe pas un truc toutes les 10 minutes, quoi. Donc, ils s'ennuient à un moment. Et donc, quand ils voient une tête vaguement connue, si vous voulez, eh bien ça crée de l'entertainment, voilà. Et donc, le Samuel, 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 c'est pas parce que je suis une star, c'est pas parce que je suis connu, c'est pas parce que je suis quelqu'un de bien, pas du tout. C'est juste parce qu'en fait, ces gens se disent, ah, il se passe quelque chose. Il y a le papy du stream qui passe. Et donc, on fait Samuel, voilà. Et donc, c'était mignon parce qu'à un moment, j'ai eu la chance de me balader en bas, là, le long du paddock des écuries. Et donc, quand de très haut, certains me reconnaissaient, il y avait des grands gestes, des grands coucous, des bisous, c'était super quoi. Alors, ça, donc, c'est la vidéo que je voulais vous montrer. Et puis, ce qui est très drôle, c'est les coulisses de cette vidéo. Parce que. J'adore cette photo. Parce qu'à un moment, bien sûr que les gens se faisaient chier. Parce que certains attendaient depuis le matin. Enfin, la course n'a pas duré très longtemps quoi. Mais ils se faisaient chier dans la bonne humeur. Ça se voit d'ailleurs quand on regarde les visages des gens, et on était super contents. Et donc en fait, à un moment, je monte dans les tribunes avec Joe et je dis, voilà, moi Joe, je voudrais mettre une photo où on voit qu'il y a du monde, quoi, pour montrer qu'il y a du monde. Sauf que je suis un peu ras les pâquerettes, moi. Je suis pas très très haut, quoi. On va dire. Même pas du tout. Et on essaie différents trucs, et puis je vois que la photo est pas terrible. Et à un moment, Joe avise un géant, qui est ce très gentil garçon, là. Qui était sur le point de me demander un petit selfie, parce que je fais quelques selfies. Et je sais pas d'où ça vient, hein, Joe. Il s'adresse à ce gentil géant, qui était costaud et grand. Il dit, est-ce que tu veux bien prendre Samuel sur tes épaules, comme ça? Et le mec, très gentiment, répond, oui, je veux bien, mais pourquoi? Trop chou! Trop chou! Et Joe lui dit, bah, c'est parfait, c'est parce que Samuel ne voit rien, parce qu'il est tout petit. Est-ce que tu. Donc, le grand géant se baisse. Moi, ça fait très longtemps que je ne suis pas monté sur les épaules de quelqu'un. Je pense que j'avais 4 ou 5 ans la dernière fois. Donc, c'était au siècle passé. Et donc, le grand géant se baisse. J'essaie de monter doucement sur lui sans lui faire de mal, quoi. Hein? Et le géant me hisse. Voilà. Et je fais cette vidéo que vous avez vue, quoi. Alors après, on a échangé avec le garçon qui est formidable, d'ailleurs. Voilà, c'est lui. Voilà. Et donc, qui était là. Donc, et après, on s'est fait le selfie, d'ailleurs. Je pense qu'il l'a posté. Je crois qu'il a posté également le selfie qu'on a fait. Je sais plus où il est en réponse, en fait. Voilà. En tout cas, un garçon formidable et qui était à l'image, en fait, de l'ambiance. Et c'est un peu ça aussi que je veux vous dire. Un peu à l'image de l'ambiance de cet événement. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché. 60 000 personnes, c'est énorme, hein. Donc, au Mans, voilà, on m'a expliqué que les organisateurs de courses automobiles, là, au Mans, en fait, ils étaient habitués à recevoir des foules, mais des foules souvent sur plusieurs jours, sur 2-3 jours d'événements, de compétition. Mais 60 000 personnes sur une journée comme ça, c'est exceptionnel. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré cette foule, l'ambiance était très calme, très apaisé, très bon enfant, comme dit Miali Musique. Je suis sûr d'ailleurs dans le chat, il y a des gens qui y étaient. Voilà. Et c'était vraiment très, très, très agréable cette ambiance. Voilà. En plus, on a vu beaucoup d'amis, beaucoup de streamers, de youtubeurs, d'influenceurs, de gens que je connais, que j'apprécie, d'autres que j'ai rencontrés. Et c'était très agréable en fait de voir ce microcosme des créateurs de contenu en France, dont beaucoup étaient présents sur place. Voilà, il y a une super ambiance. Voilà. On s'est régalé. Et puis, on est rentré pas trop tard avec Joe, parce que le lendemain, il y avait Simplay, justement. Voilà. Un petit échange sur le GP? Et puis après, on pourra parler de Simplet, de l'hebdo Étienne. Et puis après, pour ne pas dépasser les 30 minutes d'introduction que je me fixe avant d'évoquer la revue de presse, eh bien, on lancera les journaux. Allez, je vous lis. Aurélien, merci pour le 4e mois. Mimiche pour le 3e mois. Jom, si t'as baisé, merci pour le 7e mois. Despotique, 25 mois, tu es au maximum. Merci, vous êtes formidable. Oui, bien sûr, 1,3 million de viewers sur Twitch, donc record battu pour le GP Explorer. Et on est d'accord que du coup, c'est le nouveau record français du stream du Twitch français, on est d'accord, hein, puisque le record d'Amine et du match de football a été battu, on est d'accord, hein, c'est le nouveau record, c'est ça. Ouais. Alors moi, j'étais un peu emporté par mon enthousiasme, j'avais pronostiqué 2 millions. J'avais pronostiqué 2 millions de viewers en pic. J'ai été un peu optimiste. Et puis, dans les pessimistes, ils disaient 1,5 million. Et je disais, non, vous allez voir 2 millions. Alors, j'avais une info qui était peut-être une fake news. J'avais eu l'info que je peux donner maintenant. On m'avait donné juste avant qu'au moment du départ de la course, l'événement allait se retrouver en front page aux États-Unis, sur le Twitch aux US. Quand vous voyez le bassin de population américain et le fait que l'heure était encore cool aux États-Unis, en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, si aux États-Unis, c'est en front page et que les Américains, Américaines commencent à regarder ce truc, ça va faire 2 millions. Voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que le front page aux États-Unis, c'était une fausse info? En tout cas, je pensais que ce serait beaucoup plus puissant, quoi. Voilà. Étoile formidable, bien sûr. J'ai une jolie photo avec Étoile d'ailleurs. Quelqu'un me dit dans le chat que Étoile était topissime. Il était topissime. Lui, il réussit tout ce qui touche, ce garçon. Ouais. C'est Mimiche qui me dit que Étoile était très bon dans son rôle. Très, très bon. Ouais. Salut Hugo. Salut Erendil. Comment vas-tu? Ouais. Moi, je vous avoue que je pensais que ce serait plus, en fait. Je pensais que ce serait plus. Plus qu'1,3 million, quoi. Ah, peut-être. Ah ouais, pas faux. Il y a Damond qui dit les Américains à une clique et puis à la seconde où ils voient que ça parle pas anglais, ils se cassent. Ouais. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Pourquoi ouais, merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement. Vous êtes plusieurs à me demander des nouvelles de Manon. J'ai vu passer des nouvelles de Manon, donc la pilote qui est sortie de la piste. Avec Maxime Biaggi du coup dont on n'a pas eu de nouvelles tout de suite, ce qui a provoqué beaucoup d'inquiétudes. J'ai vu des nouvelles passer comme quoi elle était un peu choquée, un peu musculairement meurtrie, mais en bonne santé. J'espère que vous avez les mêmes infos. Si vous avez des infos un peu carrées sur Manon, ça m'intéresse bien sûr. Je crois que tu as raison, écrivain. L'écrivain nous dit que le streamer espagnol Ibai détient le record mondial d'audience sur Twitch lors d'un événement de boxe. Hein, 3 millions de viewers, 25 juin 2022. Donc je parlais bien du record du stream en France, hein, bien sûr. Mais je sais que ce n'est pas nous qui avons le record mondial. Il y a Rimek qui dit c'est très gentil de penser qu'on va me le proposer, on me le proposera jamais. C'est très gentil. Rimek me dit l'an prochain en pilote Samuel si on te le propose. Oui, ah oui, évidemment, c'est un tel événement, ça ne se refuse pas. Si jamais on me proposait de participer à un événement comme celui-ci, je le ferais parce que je trouve que c'est une grande fête. C'est une grande fête du stream français. C'est merveilleusement organisé. C'est plein de belles ondes. On me le proposera jamais. Pour plein de raisons, voilà, et notamment en raison de mon grand âge. Oui, Néo qui dit, mais qui refuserait, c'est énorme, bien sûr, pas moi en tout cas. On m'a expliqué que c'était le papa d'un des pilotes, est-ce que c'était le papa de Gotaga qui devait le faire avec son fils, c'est ça, c'est avec Gotha, et Billy, c'est le papa de Billy. C'est ça, le papa de Billy, pardon, qui devait le faire et à qui on a dit finalement que, comme il était un peu âgé, quoi, genre mon âge, je sais pas, et en fait, en termes de réflexe, ça le ferait pas. C'est l'histoire qu'on m'a racontée, quoi. Mais en vrai, moi, comme j'aime bien les défis et que j'aime bien relever les défis, et puis j'adore démontrer que je suis capable d'un truc quand tout le monde dit que je peux pas le faire, si jamais on me le proposait, bien sûr que je dirais oui. Sachant que j'ai quand même fait beaucoup de motos, que j'ai fait un peu de piste, et qu'à une époque, j'étais un peu foufou, quoi. Voilà. Mais on ne me le proposera pas, et ça ne me choque pas. Je pense qu'il y a un millier de gens plus légitimes que moi pour rentrer dans un baquet sur un tel événement, quoi. Donc, mais en vrai, évidemment, que ça ne se refuse pas. Voilà. Merci Terlopop pour le deuxième mois d'abonnement. Merci Adouki pour le 14e mois. Ouais, j'ai posé le genou, les gars. J'ai posé le genou. Si vous tapez Highside, super émission sur la moto, vous me verrez sur le circuit du Castellet en train de poser le genou et même de poser toute la moto sur la piste. Alexandra, je t'envoie plein de force. Version moto de l'event, je pense que ce serait pas aussi populaire, Benjamin, mais c'est double oui, bien sûr. Alors, c'est pas une question d'âge, me dit Edelsen, ok, pour le papa de Billy, il était pas trop âgé, sinon il l'aurait refusé de suite, ouais, c'est pas con. C'est suite aux 3-4 premiers tests sur piste qu'ils ont réalisé que ça le ferait pas. Ah, ok. Ah, ok, d'accord, merci, je n'avais pas l'info. Donc, encore, ok, donc bon, donc si c'est pas l'âge, ok, je suis candidat. Est-ce que j'accepterais Dost, Leven comme Douag, Kameto, Étoile? Est-ce que j'accepterais de participer à l'animation en Cassé Hunters? Bien sûr. Bien sûr. Si c'est pour interviewer des gens, si c'est pour co-animer, si c'est pour amener des cafés. Oui, bien sûr. Oui, c'est un bel événement. Aucun débat là-dessus, quoi. SCH veut faire le même genre de course avec des motos sur circuit. Samuel, c'est pour moi. C'est pour moi. Là, je pile tout le monde. Dernier sur les freins, c'est ma signature. Voilà. Je suis. Voilà. J'en ai mis des motos au fossé, hein. Je peux te dire que. Voilà. Je n'ai aucune conscience de mes limites. Voilà. Donc, c'est bien d'ailleurs que je me sois assagi avec l'âge, quoi. Non, en vrai, en moto, je pourrais. Je pourrais bien me bourrer, en fait. Je pourrais bien me bourrer au premier virage. Je pense que je pourrais, ouais, je pourrais. Je pense que l'espace d'un instant, sur quelques secondes, sur le départ et le premier virage, je pense que je peux faire douter tout le monde, quoi. Puis après il y a le premier virage et puis fin de l'histoire. Mais voilà, comme le dit Scar, dernier sur les freins, premier dans le gravier, c'est moi ça. Voilà. Non, j'adorerais. Non, en vrai c'était super. Voilà. Allez, je voulais un petit peu sur le GP. Et puis on enchaîne avec l'hebdo Etienne et ça me plaît. Ah, pas mal ça, il y a Gadlan qui me propose un pseudo pour ma chaîne, premier sur l'info, dernier sur les freins, c'est du slogan. Oh, j'ai tellement été passionné de moto. J'en parle au passé, parce que du coup, en devenant papa et en vieillissant un peu, et en fatiguant un peu et en dormant moins qu'avant, j'ai trouvé que, bah, pour le coup, j'avais pas les réflexes que j'avais avant en bécane, et j'ai arrêté de rouler en moto à Paris, ce que j'ai pourtant fait toute ma vie, parce que je trouve que je suis moins affûté, quoi. Voilà. Peut-être que quand je serai un peu plus reposé, que j'aurai redormi, je reprendrai une bécane, mais j'avoue que j'ai arrêté pour ces raisons, des raisons de sécurité en fait. Merci Kerneos, je viens de voir. Merci beaucoup pour le soutien, c'est adorable. Oh, c'est trop mignon. Alors Ravenclaw, merci pour le gentil message que je vois, mais surtout bravo pour le... Je vois un 8 ans de Pax et 10 ans ensemble cette année, bravo à toi. J'ai pas croisé Pepe Garcia, il y a plein de gens que j'ai pas vu. J'ai eu la chance de croiser Rayou, j'ai eu la chance de croiser Étoile, j'ai pas croisé les grands organisateurs, j'ai pas croisé Squeezie. Moi j'étais surtout là pour me balader un peu au hasard. J'ai croisé Jill, ça m'a fait plaisir, que j'avais reçu la semaine d'avant dans Simplay. J'ai croisé Jill, j'ai croisé Constance Villanova, journaliste qu'on a reçu dans l'Hebdo Etienne. Plein de gens, mais j'ai pas croisé tout le monde, quoi. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est de croiser les gens dans le public, en fait. Ça, c'est cool, de voir les viewers en vrai. Qu'est-ce qu'il a, mon titre? J'ai mis la soirée Étienne. Non, j'ai mis la matinée Étienne, c'est cool. Il va bien, mon titre. La matinée Étienne, on les journe ensemble, non, ça va? Oui, j'ai croisé Rayou et Étoile, les deux, ouais. Ouais, merci pour ça, me plaît, c'est gentil. Bien sûr que Étoile et Rayou sont deux personnes différentes. Bien sûr, bien sûr. Vous pensez pas qu'il arrive à streamer ce qu'il arrive à streamer, à être partout à la fois et à réussir tout ce qu'il fait en étant tout seul? Je pense que vous l'avez deviné depuis longtemps qu'il y a Étoile et il y a Rayou. Il y a même, parfois, ils sont même épaulés tous les deux par un troisième qui s'appelle Ryan. Voilà. Exactement. Bon, donc GP formidable. 24 minutes. Un petit mot de l'Hebdo Étienne. Ok. Donc, on avait une nouvelle édition de l'Hebdo Étienne vendredi. C'est une émission que j'ai trouvée intéressante. Moi, aucune émission ne ressemble à la précédente. Voilà. Et c'est ça que j'aime. Je vous remontre l'affiche de ceux qui l'auraient raté. Vendredi, donc on a reçu Manon Bril, la youtubeuse, la docteure en histoire, génial. Bruno Solo, pour la première fois, l'acteur, il est nulle part sur les réseaux sociaux, c'est son premier stream, j'ai très heureux de le recevoir. Thierry Moreau, l'habitué, le spécialiste des médias, voilà, qui fait une belle rentrée médiatique puisqu'il va maintenant être dans l'équipe de C Médiatique, excellente émission sur les médias le week-end sur France 5. Et il y avait Hugo Couturier, c'est sa première aussi, donc jeune streamer passionné de politique. Ramdamdam, oui, il n'y a plus les hebdos en podcast. Joe va s'en occuper et il m'a promis qu'on allait retrouver les hebdos en podcast. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission de vendredi, hein, qui était de 17h à 20h exceptionnellement pour qu'on puisse voir le match. Alors, je lis. C'était un peu compliqué le son, tout le monde parlait en même temps. Maori, je vais vous répondre là-dessus. Très sympa, me dit Altis Play. Salut Altis Play. Bruno Solo, incroyable personnage. J'ai adoré l'émission, me dit Ursong. Alors, c'est intéressant, c'est qu'on a tous vu la même émission, mais évidemment, on va tous avoir un ressenti différent. C'est ça qui est intéressant. Dur, cette émission, ça manquait de bienveillance, me dit Mats. J'adore Manon Bril, brillante, me dit Nab. Moi aussi, j'ai adoré. J'adore cette émission d'habitude, mais cette semaine, je l'ai trouvée difficile à écouter. Ça parlait trop en même temps. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, Gadlin. L'hebdo était vampirisé par deux des quatre invités, j'ai trouvé ça dommageable, me dit Mimi, je vois de qui tu veux parler du coup, hein. De bordel l'émission avec les micros, voilà. Plein de bons débats, j'ai trouvé le temps de parole pas très équitable, me dit Cosmic Babar. Manon a réinventé, me dit Kletos Bright, trop vrai. Ok. Donc ça, c'est des retours que j'ai vus en temps réel et que je revois ici, effectivement. Alors, c'est marrant parce que vous êtes plusieurs à saluer l'horaire. Alors, moi, j'étais surpris en fait qu'il y ait autant de monde entre 17h et 20h. Juste un mot de l'horaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce... Parce que moi, ça m'a un peu intrigué en fait de voir qu'il y avait du monde entre 17h et 20h. Et puis en fait c'était super parce qu'après je suis rentré à la maison, j'ai passé la soirée du vendredi avec les enfants. On a fait notamment une partie de Smash avec Malo. Parce que le vendredi, Malo a le droit de jouer aux jeux vidéo. Donc je suis arrivé, il y avait Mario, puis Mario un autre univers, Mario dans un autre univers, je suis un peu perdu, il m'a expliqué. Et après on a joué genre 1h30 à Smash avec sa maman. Voilà. Donc j'ai kiffé. Et là je me suis dit tiens, est-ce que 17h, 20h top, un peu trop tôt, le soir j'ai pas envie d'actu, 20h c'est trop tard pour ce genre d'émission, trop tôt 17h on n'a pas forcément fini de bosser, ouais, trop tôt, c'est mort je peux pas être là, ok, ouais donc 17 trop tôt, 10, de, juin 18-21h qui semble séduire, c'est ça Jojo Fury, hein, 19h-23h, 4h de stream. Non, moi je veux pas épuiser mes invités, c'est 3h cette émission. Le 18h serait pas mal. Je vois beaucoup de 18-21 quoi. Ou 24h sur 24 comme dit Benjamin. 18h30, dit Sarah. Allez-y, hein, 35, 37, 18h37. Ok, mais en fait en vrai peut-être qu'un peu plus tôt. Ouais. Peut-être que 19h peut-être. 19h peut-être. ou 18h. Sondage. Trop important ça. Sondage. Enfin, sondage? Allez, ok. On part sur une émission de 3 heures toujours et vous avez, je vous donne le choix entre plusieurs horaires. L'hebdo, Étienne. Je mets début à 2 points 17h. Sachant que ça dure 3 heures. 18h. 19h. 20h, comme aujourd'hui, et je ne sais pas. Voilà. Mais hors de question de faire plus tard. Hein. 18h, 23h, bien sûr. Fredo, le rigolo. Tu es vraiment rigolo. Je ne vais pas streamer 5 heures. Je tiens à ma santé. C'est parti. Vous avez 2 minutes pour voter. Voilà. Non, on va pas jouer à Witcher 3, même si j'en rêve à Sertru 35. Voilà. Mais on va en parler, on va en parler. On va parler de Samplay aussi, avant de lancer de la revue de presse. Ça. Attention, le verdict du sondage. C'est parti, ça donne ça, regardez. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Alors, 17h, non, 5%. 18h, 40%. 19h, 31%. Et vous n'êtes, c'est ça qui est intéressant, que 20% à proposer 20h. Je vois plein de subs, Natou, Laurie, je vais vous remercier dans un instant. Si j'additionne le 19h et le 18h, il y a une vraie envie de plus tôt. Pas de plus tôt Mickey Mini, hein. De plus tôt. De plus tôt. Ouais. Donc, du coup, la moyenne, 18h30. Non, c'est pas joli, 18h30. 19h peut-être. Ou 18h30. 18h30? En vrai, 18h30, quoi. Il y a une réflexion qui va être engagée là. Peut-être 19h quoi. En fait, parce que j'ai l'impression que 19h les gens seraient déjà là. Et puis après, les invités et moi-même, on aurait une soirée un peu plus cool quoi. Un peu en famille quoi. Mmh. 19h peut-être. Hein. C'est pas mal hein. Ouais, ok. Alors je note que certains me disent oui, mais là tu demandes aux gens du matin. Alors les gens du matin, les gens du matin, c'est un peu les gens du soir aussi. Vous êtes beaucoup à regarder les petites tiennes quand même. Ok. En tout cas, je trouve ça vachement intéressant et je vous remercie. Et puis je remercie les subs aussi parce que j'en ai vu plein passé que je n'ai pas remercié. Donc Laurie, Marin, merci beaucoup pour ce soutien. Natou, merci beaucoup pour le 18e mois. Jérôme 78 pour le 11e mois. Johan VDA, je t'ai vu. Merci beaucoup pour l'abonnement. Napoléon avec un B comme Bernard, merci beaucoup pour le 12e mois. Lemming 67 et Xerneo, je vous ai remercié tout à l'heure, mais je le refais. Et merci Ticlem un instant pour le 9e mois d'abonnement. Ok. Ok, 19h. Je vais en parler à mes invités. Je vais en parler avec Joe. Ouais. Ouais, ok. Et Joe Coco, il en pense quoi? Joe, il sera content, hein, je pense. De terminer moins tard, en vrai. Je vais voir, je vais réfléchir. 19h. On va voir. Mamo 79, merci pour le 4e mois d'abonnement, vous êtes formidable. Allez, pour terminer, parce que là on est déjà à 32 minutes. Normalement, la règle c'est de ne pas dépasser les intros de 30 minutes pour que ceux qui viennent pour l'actu aient l'actu. Un petit mot de Samplay. Donc, le numéro 3 de cette saison de 31 émissions de Samplay, de 31 jeux vidéo. Qu'on va explorer, découvrir ensemble, hein, je vous rappelle le concept, chaque dimanche soir, 20h. Dimanche soir, alors 20h, dimanche soir, c'est bien, je crois, peut-être. Parce que pour le coup, j'aime bien l'idée de proposer une soirée apaisée, chill, tranquille, alors que justement, il y a un peu le stress du lundi. Là, j'ai pas du tout envie de changer cet horaire, et je me suis régalé, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé cette émission. En fait, ça s'est peut-être vu d'ailleurs, elle m'a un peu scotché. Voilà. Le jeu en fait. Donc c'était le troisième jeu de cette saison entière de Samplay, le cinquième que je découvrais dans ce cas. Donc je vous rappelle qu'on a commencé avec en juin Kayane sur Street Fighter 6, l'univers de Super Mario avec Ken Bogard, et puis un premier stream en cette rentrée avec Étoile sur Smash, un deuxième avec Jill sur Pokémon Emerald, et donc. The Witcher 3 Wild Hunt avec Tonton qui venait exprès de Suisse. Voilà. Hyper gentil. Et j'ai été scotché par le jeu, quoi. Voilà. Et en fait, si j'avais du temps que je n'ai pas, eh bien, je peux vous dire que je serais en train de jouer, quoi. Et peut-être que je vais le faire. Peut-être que je vais demander à Joe de mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir, parce que pour le coup, mon petit setup du matin, il est clairement insuffisant en termes de capacité pour faire tourner le jeu, je pense. Donc, il faut que je pose la question à Joe de savoir si je voulais jouer un peu moi et que vous puissiez vous moquer de papy. De comment faire, quoi. Oui, parce que là, avec mon petit PC portable du matin, ça, je pense que ça ne marche pas. Avec le PC qu'on m'a fourni, les partenaires pour Simplay, il n'y a aucun souci. Mais, voilà. Donc, mais en vrai, j'aimerais bien aller plus loin dans ce jeu. J'ai vraiment été scotché. Alors évidemment, vous connaissez tout ça, mais... Ce jeu, il date de 2017, hein, de Witcher 3, mais j'ai été totalement bluffé par la qualité des images, des décors, de la mécanique de jeu, des dialogues, des voix françaises sur les personnages. Voilà. Ouais, je prends une console, ouais. Moi, c'est pas con. Ouais. Ouais. Plus simple, peut-être. Ah ouais. C'est ce que dit Sao aussi, joue sur PS5, t'auras pas les galères d'un gros setup. Ah ouais, petite PS5. Ouais. Et sur Switch aussi? Vous me conseillez sur quelle console? Je vois du Xbox. Alors, il y a eu un débat énorme sur le fait que... Voilà, on était parti sur jouer clavier-souris et il y a eu un débat qui a duré pendant tout le stream. Et pourquoi il joue clavier-souris? Bah, et très bonne réponse de Joe. De toute façon, il est aussi mauvais en manette, Samuel, qu'en clavier-souris, quoi. Donc, pourquoi pas, quoi. Voilà. PC ou rien, ou Xbox. Okay. Beaucoup moins beau sur Twitch. Non, pas Witcher sur Switch, me dit Adekali. Ok. Pas sur Switch. Ok, donc c'est non sur Switch. Ok. Jamais Switch, je t'en supplie, respecte-toi et nous, me dit Xo, voilà. Carte de capture, j'en ai, Cravenius, puisque en fait, ce que j'utilise pour vous montrer les journaux, c'est une carte de capture. Donc a priori, j'ai ce qu'il faut. Ok. Bon, je vais en parler à Joe, il va me conseiller après. Il faut que je trouve le temps de le faire, mais voilà, j'ai été happé par le jeu, j'ai été très heureux de recevoir Tonton que je connaissais que par ses streams, voilà, et par l'énergie folle qu'il a le matin sur ses streams. J'étais très très content de rencontrer Tonton et Tata, du coup, sa compagne qui était d'ailleurs dans le chat, Tonton et Tata, qui est streameuse, m'a-t-il expliqué par ailleurs, mais qui fait plein de choses, qui travaille, qui étudie en même temps, enfin voilà. Ils ont une belle histoire tous les deux, et j'étais très heureux de le recevoir, et vraiment, j'ai découvert une belle personne avec un bel équilibre de vie, belle hygiène de vie, voilà. Vraiment, c'était un chouette moment humain, et puis un moment de découverte pour moi de fou sur ce jeu, quoi. Alors, j'étais très content de ce moment. Vous avez aimé cette émission ou pas? Ça vous a plu? Ouais, Taïa confirme, un très gentil tonton. Oui, il y avait un tonton, il y avait un papy dans ce stream, en fait. Graphisme tellement magnifique, me dit Nat. J'ai pris tellement une claque sur les images. Ouais. Bon, après, l'objectif, c'est d'inviter que des personnes cool. Hein. Sur ma chaîne, j'essaie d'inviter que des gens que j'aime bien, quoi. Voilà. Je peux déjà vous annoncer, par exemple, que dimanche prochain, ce sera... Je vous dis pas. Ouais, j'avais même du mal à parler, en fait. Tellement j'ai été par le jeu, quoi. La musique, bien sûr, la musique incroyable. Super. Et en fait, à la fin, j'avais du mal à sortir du jeu, quoi. Quel jeu dimanche prochain, me dit Mamie Bricole Tout. Rocket League, exactement. Rocket League. Voilà, avec RTPXP avance le nom de Patrick Balkany la semaine prochaine. Non. Alors, c'est Rocket League, je confirme. Sur quel. Avec quel streamer ou quelle streameuse? Suspense. Vous le saurez vers jeudi, je crois. Vous le saurez jeudi, je crois. Voilà. Alors, quand j'ai annoncé Rocket League, les gens m'ont dit, mais Samuel, en fait, tu vas être encore plus perdu et encore moins bon que Sur The Witcher. Est-ce que, voilà, c'est me dit Xold, c'est le jeu le plus dur. Pourquoi, en fait, parce que je ne sais même pas ce que c'est. Pourquoi sur. Tu vas en chier, me dit Eden Blaster. Pourquoi c'est dur? Comment ça va? Il y a EMR, le poète dans le chat, qui dit ça va saigner du yonf. Pourquoi? Beaucoup de skills, mécaniquement complexes, mécanique de jeu très compliquée. Ah, le foot avec les bagnoles! Ah, c'est ça! J'ai mis. Oh merde! J'ai mis 5 heures à toucher la balle pour la première fois, me dit Marbrex. Ah merde! Je vais vous remercier pour les subs dans un instant. Oui, j'ai vu la voiture dans les airs avec le ballon là. Ça a l'air super simple. C'est compliqué. Ah merde. Ah ouais. Ça joue clavier et souris ou. Ok. Gameplay difficile à appréhender. Il faut au moins 100 heures pour pas avoir l'air d'un idiot, sachant qu'on va y consacrer 3 heures. Ok. Ça me fait penser que j'ai un seul regret par rapport au stream d'hier. La promesse, c'est. À la fois de parler aux passionnés de jeux vidéo et de parler dans cette émission à ceux qui, comme moi, vous savez, connaissent mal cet univers et veulent rattraper leur retard. Donc, moi, je suis là pour la partie, les questions un peu qui peuvent paraître un petit peu, comment dire, premier degré ou très très basique aux spécialistes, mais des questions que je pose en tant que voilà, quelqu'un qui connaît pas bien cet univers. Et puis, l'expert, il est là justement pour parler aussi aux passionnés. Oui, un peu naïve, rêverise, Ferry, c'est totalement assumé. De toute façon, je le suis un peu, quoi. Et là où je m'en suis voulu, c'est qu'on m'a vu jouer, mais je pense qu'il aurait fallu voir jouer également Tonton. Voilà. Et en fait, je pense que c'est mon petit regret, juste après que j'ai cut le stream hier. En fait, je me suis dit, mais merde, je pense que les gens auraient voulu voir Tonton jouer, c'est-à-dire voir quelqu'un de bon à ce jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, on a bien compris que voilà, je kiffais, mais non? C'est vrai? Vous pensez que ça aurait pas ajouté grand-chose? Si, quand même. Un petit quart d'heure, quoi. Pas forcément. Ah ouais? Ah, c'est marrant, vous n'êtes pas trop d'accord. Ok. Ah bon? Bon, bah ça me rassure. Parce que pour moi, c'était le seul truc que j'ai regretté après, quoi. Ok. Ok, vous êtes cool, vous êtes vraiment gentil. Je sais pas si je mérite tout ça. Allez les gars, on va partir sur la revue de presse. Merci en tout cas pour cet échange, c'est très agréable parce que c'est aussi ce qui fait progresser en fait. C'est la chance d'avoir vos retours sur ce que je fais et de voir ce qu'on peut améliorer quoi. Voilà. Sachez que Tonton stream pas ce matin, mais parce qu'il est rentré ce matin de Paris pour la Suisse, hein, mais il sera demain matin en live, quoi. C'est puisqu'il stream, on va dire, m'a-t-il expliqué, normalement tous les jours de l'année, il doit manquer 2, 3, 4 jours par an max. Et je m'en voulais parce que du coup, c'était à cause de moi et de l'émission d'hier soir qu'il n'a pas streamé ce matin. Voilà. Alors, miel bleu, détrompe-toi. Tonton m'a dit que l'inverse, en fait, il a. Moi, alors, vous demandez peut-être comment je choisis les jeux. Alors moi, je choisis d'abord les personnes parce que j'invite d'abord les gens parce que je suis curieux des gens et je demande à ces streamers, streameuses, gamers, gameuses de me proposer un jeu et je leur dis quel est le jeu avec lequel tu as eu plus de plaisir ou alors le jeu avec lequel tu as du plaisir en ce moment, voilà, qui t'a le plus marqué. Donc un jeu important pour eux. Quelqu'un me disait, ah, mais moi j'ai entendu un jour Tonton me dire qu'il n'avait pas tant de plaisir que ça dans ce jeu. Lui m'a dit que c'était vraiment des jeux qui l'avaient marqué. Voilà, donc moi je fais confiance à mes invités et ils me font une proposition. Je dis, ok, d'accord, yes. Voilà. C'est un peu l'idée. Lilou Rennaise me dit, on n'a pas eu votre ressenti sur le stream de vendredi soir. Alors, je suis un peu. Oui, alors sur le côté bordel de vendredi, c'était le bordel, hein, tout le monde parlait ensemble et tout. Alors, je vais vous dire un truc qui est très curieux. Pas de soucis, miel bleu. Bon après, peut-être que tonton un jour a dit ça aussi, il n'y a pas de souci, mais voilà, aujourd'hui, avec le recul, il trouve que c'est un des plus beaux jeux auxquels il a joué. Sur le bordel de vendredi, c'était bordel le vendredi, tout le monde se coupait, enfin certains, deux surtout. Alors là-dessus, je suis mitigé. Je vais vous dire un truc qui est un peu troublant et que j'ai déjà constaté en télévision. C'est-à-dire que les émissions où c'est le bordel, les émissions où ça part dans tous les sens. Les émissions, notamment, ça crie un peu. Les émissions, les gens se parlent les uns par-dessus les autres. Souvent, provoquent dans le chat sur Twitch et dans les courriers, les mails à la télé, des réactions en mode « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» On n'a rien compris, c'était inaudible, je reviendrai plus, pourtant j'aime l'émission. D'accord ? Ça, c'est les réactions. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que ces émissions-là sont très regardées et font de l'audience. Ça, c'est un truc que j'ai constaté en télé, mais toujours chez les confrères et sur mes émissions, quoi. Et sur des émissions dont les réactions sont dans le chat, et ça je l'ai vu sur l'Hebdo Etienne ou sur d'autres émissions, formidable, c'est ça qu'on veut, c'est tellement chill, les gens se sont écoutés les uns les autres sans s'interrompre et tout. Alors là, c'est mes pires audiences sur Twitch. Je suis un peu embêté avec ça. Et là je parle de l'Hebdo Etienne, mes pires audiences de l'Hebdo, là où il y avait le moins de monde, c'était les émissions dont les gens dans le chat et après disaient « Ah, c'est ça qu'il faut faire. C'est formidable, c'est calme, c'est ça qu'on veut. Ouais. » Mais alors pourquoi vous regardez pas alors ? Pourquoi vous regardez, vous, hein, vous global, depuis les émissions, c'est le bordel. Et c'est systématique. Alors je suis un peu embêté avec ça. J'ai du mal à comprendre. Mais un peu embêté avec ça. Ah non, bien sûr, bah non, c'est pas. Du coup, moi, c'est pas l'objectif. Hein. Moi, je suis très heureux avec un stream où il y a 3000 personnes, comme un stream où il y a 10 000. Mais en fait, je comprends pas en fait ce phénomène-là. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai du mal. Bizarre, hein ? Ouais. Donc, la question, c'est vous êtes où ? Les émissions qui, les gens qui aiment ces émissions chill et posées, vous êtes où en fait ? En fait, vous regardez pas cette émission en fait. Parce que clairement, c'est les plus basses audiences. C'est les émissions un peu posées, voilà, correctes, respectables et tout. Voilà. Vous la regardez pas en fait. Enfin, vous n'êtes pas très nombreux. Alors, voilà, je sais pas quoi penser de ça. Je pourrais vous montrer les chiffres, c'est hallucinant en fait. Et ça, je l'ai observé en télé depuis toujours et je le retrouve aujourd'hui sur Twitch. Je ne sais pas quoi penser de ça. Je n'ai pas d'avis. Voilà. Après, moi, ce que j'aime, c'est qu'une émission ne ressemble pas à l'autre. En fait, je ne sais jamais. Moi, je n'ai pas d'objectif. Hein. Je ne veux pas faire une émission, c'est le bordel. Je ne vise pas une émission. L'objectif, c'est pas de faire une émission super agitée ou de faire une émission super chill. En fait, je m'en fous. Je veux qu'il se passe quelque chose et je veux que les gens soient intéressants, que ça se passe bien entre les invités, qu'idéalement, il y a un peu de second degré et d'humour. Et c'est ça l'objectif. Et puis qu'on soit un peu carré sur l'actu et qu'on apprenne des choses et que ce soit pas café du commerce avec parfois des idées qui pop et on se dit waouh, ah ouais, ça c'est intéressant. Voilà, ça c'est l'objectif, très modeste. Après, le ton de l'émission un peu chill ou un peu énervé, ben, en fait, ça dépend pas de moi, ça dépend des invités. Et comme j'aime beaucoup mélanger des gens très très différents et de changer beaucoup les invités un peu pour parce que c'est un peu la ligne de l'émission plutôt que recevoir toujours les mêmes, ben en fait je sais jamais à l'avance ce qui va se passer. Là par exemple le bordel je l'avais pas prévu, mais c'est intéressant. Non mais les gens qui disent oui mais on ne voit pas Twitch qu'à travers les chiffres, très bien. Mais en fait Twitch comme la télévision d'ailleurs, c'est pas une histoire de chiffres, c'est que c'est un truc de partage. C'est-à-dire qu'à un moment, si on est deux à partager un truc ou 10 000, eh ben, il y a quand même un moment où on partage plus de trucs ensemble. Donc si on fait une émission que tout le monde trouve formidable mais que personne ne regarde, en fait ça pose un problème parce qu'en fait on ne la partage pas, quoi. Hein, c'est comme les gens dans les enquêtes, les sondages sur la télé qu'ils veulent. Hein, quand vous demandez aux gens mais qu'est-ce que vous voulez voir à la télé, et les gens salut Laurie Marin bonne journée, les gens disent ah ben nous on veut du théâtre, on veut de l'opéra, on veut des grandes émissions culturelles, ok, non. On veut des débats politiques, c'est important aussi, ok. Quand la télévision propose ça, notamment dans le service public, hein, ces émissions un peu ambitieuses, bon ouais, en gros voilà, Caradoc le dit, quand on fait des sondages tout le monde regarde Arte, et en fait les gens regardent pas Arte, enfin regardent pas Arte comme autant qu'ils regardent TF1. Donc il y a le déclaratif et puis il y a le comportement, quoi. Donc c'est ça, c'est un vieux truc. Et que je trouve qu'on retrouve un peu ici, quoi. Ouais. Ouais. Bon, c'est vrai que c'était un peu le bordel dimanche. Vendredi, c'est vrai. Bon, en tout cas, débat intéressant, mais c'est un vieux débat. C'est-à-dire que c'est pas un débat qui date de vendredi, c'est un débat très très vieux. Laurie, merci encore pour les beats, bonne journée. Auruc, là, dans quelques secondes, on démarre l'hebdo Étienne parce que l'intro est un petit peu longue ce matin et je m'en excuse, mais bon, on avait pas mal de choses à débriefer ensemble et je vous en remercie. Merci Auruc pour le 25e mois, Patricios pour le 17e mois, Yann pour le 24e mois. Merci beaucoup pour le gentil message. Deux ans, Famous, merci encore. J'ai fait de mon mieux, Douglas au soleil, Mamo 79, je vous ai carrément pas remercié, Ticlem. Et je crois que je suis ok. Natou, Jérôme, ouais, je vous ai remercié, j'espère. Voilà. En tout cas, merci pour vos retours sur le GP, sur l'hebdo Étienne. Sachez que de toute façon, ça m'intéresse et ça nourrit ma réflexion. Et notamment les gens qui sont pas d'accord avec moi, ça m'intéresse encore plus. Et ça me plaît, voilà, donc je me régale. Donc la semaine prochaine, on reçoit, je ne vous dis pas qui, pour. Jouer à comment ça s'appelle le jeu avec la voiture et le ballon là, qui a l'air très facile à jouer, comment vous dites, Rocket League, voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour un sommaire, est-ce que vous êtes prêts pour un mini sommaire genre de 5 minutes qui va permettre à ceux qui ne peuvent pas rester 2-3 heures ce matin d'avoir l'essentiel de l'actu? C'est un petit yes ça. Yes. Ok, ça c'est un vrai yes. Ouais, on fait ça. C'est parti pour un petit sommaire, ok? Alors, let's go. Voilà, merci d'être avec moi. On va être là ce matin, on va être là demain matin, mercredi matin, jeudi matin, revue de presse, peut-être même vendredi matin. On va voir. Voilà, c'est reparti. Question pour un champion. On reprend dans 3 semaines, 1 mois. On y va. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de une sur le Maroc. Et heureusement, d'ailleurs, voilà, quasiment toutes les unes de vos journaux ce matin sont sur le tremblement de terre au Maroc. Le bilan qui est extrêmement lourd, voilà. Et puis des questions et des interrogations, ouais, sauf le JDD, effectivement, c'est in live, qui n'a pas fait sa une hier sur le Maroc, ce qui a été un peu étrange d'ailleurs. Mais bon, le contenu de ce journal, du nouveau visage de ce journal n'est, je trouve, pas très intéressant. Donc ce matin, c'est le Maroc, voilà. Et puis, certains débats, certaines polémiques aussi, vous allez voir. Donc, le bilan, on l'évoquera avec le Parisien, on est au-delà de 2000 morts, hein, 2100 morts hier soir, et c'est sûrement un bilan qui va continuer à s'alourdir, c'est énorme, hein, 2000 morts. Et puis, une interrogation notamment qui est dans le Parisien, qui est aussi dans Libération notamment, et dans le Figaro encore, c'est pourquoi le Maroc refuse à ce jour, hein, la proposition d'aide des autorités française pour venir au secours des sinistrés, participer aux recherches aussi. Voilà. Le Maroc a accepté l'aide espagnole, le Maroc a accepté l'aide du Qatar. Les relations diplomatiques entre Paris et Rabat ne sont pas bonnes. Non, c'est faux, Nico Manga, qui dit ils ne veulent aucune aide internationale. Pas du tout, ils ont accepté l'aide espagnole et l'aide du Qatar. Donc pas du tout. Donc ils ont refusé l'aide française. Voilà. Peut-être que ça va changer dans les prochains jours, les prochaines heures, mais à ce jour, ils l'ont refusé. Et en fait, Bernie me dit, on sait pourquoi. Oui, on sait pourquoi. A priori, on sait pourquoi. En fait, c'est... on me dit qu'ils ont aussi accepté l'aide des Britanniques. Voilà. On verra. Parce que les relations diplomatiques sont très mauvaises entre Paris et Rabat, entre le Maroc et la France depuis quelques années, et entre... le roi Mohamed VI et le président Macron. Voilà. Donc, alors ça crée un débat, parce que est-ce que c'est bien de refuser de l'aide qui pourrait sauver la vie de Marocains et de Marocaines, hein, c'est la question. Voilà. Alors évidemment, c'est l'ancien colonisateur, mais pas seulement. Parce qu'à une époque, les relations entre les deux pays se passaient beaucoup mieux. Pourquoi ces problèmes diplomatiques, on l'évoquera rapidement tout à l'heure. Donc c'est une des questions. Et puis d'autres questions, c'est pourquoi ce séisme, voilà. Est-ce que ce séisme, ce tremblement de terre était attendu, voilà. Donc on a un petit article dans le Figaro qui nous dit que dans cette région, la région de Marrakech et dans le Maroc d'une façon générale, les séismes sont rares mais sont intenses, hein, et notamment il y a eu en 1960 je crois à Agadir, il y a eu un terrible séisme qui a fait entre 12 000 et 15 000 morts, donc on verra ça. La Croix en parle, l'Humanité en parle, et l'Humanité se penche sur une des raisons pour lesquelles ce séisme et ce bilan est si lourd, c'est le fait que, notamment dans les petits villages, eh bien, les habitations sont construites de manière insuffisamment solide, ne respectant pas, pour des raisons sans doute de coût, hein, les normes anti-sismiques. Et là, vous avez un séisme qui est violent, mais qui est beaucoup moins violent que des séismes dans des pays plus riches et où les normes sismiques sont très sévères, comme le Japon, comme un pays comme le Chili, par exemple, aussi dans les grandes villes, là où vous avez des séismes qui sont beaucoup plus violents, qui font beaucoup moins de morts. Et il faut, pour ceux qui connaissent un petit peu la question des tremblements de terre, vous savez, parfois il y a des tremblements de terre qui sont moins violents que d'autres et qui font pourtant beaucoup plus de morts parce que ça dépend énormément des infrastructures du pays. Bon, là c'est le cas au Maroc et l'humanité nous explique ça ce matin. Rapidement, pour ceux qui ne pourront pas être avec nous, question posée par le Parisien, est-ce qu'on pouvait prévoir cette catastrophe? Voilà, non. Voilà. Aujourd'hui, les scientifiques, les sismologues ne peuvent pas prévoir quand, où un séisme va se produire et avec quelle force. On ne peut pas le faire. Voilà, donc ça, c'est peut-être que dans quelques dizaines d'années, ce sera le cas, mais ça n'est pas le cas. Voilà, je vous résume ça de façon extrême. Hein. Après, on va développer tout ça, bien sûr. Quelqu'un me dit, ça fait peur, c'est pas loin de nous. On sait que dans le sud de la France, si je ne dis pas de bêtises, dans la région PACA, un jour se produira un très fort séisme. On le sait. On sait qu'on est sur une faille, là, une zone de friction dans le sud de la France. Je crois, mais là, c'est à vérifier par contre, hein, des souvenirs dans la région de Nice, voilà, notamment, mais pas seulement. Hein, on sait qu'un jour il y aura un très fort séisme. On le sait. Voilà. Donc un jour on sera touché aussi. Un dossier dans le monde pour rester dans l'international, assez étonnant sur Elon Musk, patron de X, patron des fusées, etc., et des bagnoles, acteur erratique de la guerre en Ukraine. Erratique, c'est un mot qu'ils n'utilisent pas forcément au quotidien. Xara, merci pour le sixième abonnement. Erratique, c'est dont on ne peut pas prévoir le comportement. Elon Musk, en fournissant ses satellites, c'est pas les satellites, mais le réseau Starlink aux forces armées ukrainiennes, a aidé à l'effort de guerre ukrainien, mais on vient d'apprendre, via une biographie de Musk. Bah John, tu verras que non. Dans une biographie qui vient de sortir aux États-Unis, biographie autorisée d'ailleurs par Musk, qu'il a débranché le réseau Starlink sur une zone en 2022 pour empêcher une offensive ukrainienne contre la flotte russe, contre les bateaux russes. Voilà. Il a demandé à ses ingénieurs de débrancher le réseau sur une zone où l'Ukraine allait taper avec des navires drones, là, la flotte russe, pour empêcher cette frappe. Pourquoi? Ça, je vous le dirai tout à l'heure. Pourquoi? Il l'assume totalement. Hein. Alors, Julien, le Monde nous dit qu'il a confirmé. Voilà. Là, j'ai un extrait de l'article. Il l'a confirmé lui-même sur X, sur Twitter. Voilà. Dans un message publié jeudi, une petite nuance, c'est que lui, il dit qu'il n'a pas débranché, il a refusé d'activer. Hein ? Donc lui, il confirme. Les autorités gouvernementales ukrainiennes ont demandé en urgence d'activer Starlink jusqu'à Sébastopol, hein, parce que voilà, il avait activé Starlink sur une grosse partie du pays. Voilà, l'intention était de couler la majeure partie de la flotte russe qui était au mouillage. Voilà, et il a refusé. Donc effectivement, il n'a pas débranché, pardon, il a refusé. Voilà. Alors que pourtant, il avait fourni le réseau pour soutenir l'effort de Russes ukrainiens. Pourquoi cette décision, donc lui il s'en explique, et puis vous verrez l'analyse du Monde à ce propos. J'ai quelques bonnes nouvelles, ouais on a le sommaire, t'inquiète David, j'ai quelques bonnes nouvelles de temps en temps dans l'actualité, j'essaie de vous en trouver, j'en ai quelques-unes ce matin, merci Trail Again pour le 9e mois d'abonnement. En matière de santé, dans les pages de santé du Figaro, une bonne nouvelle concernant la bronchiolite. Alors s'il y a des jeunes parents parmi vous, ben, c'est un peu le cauchemar des parents. La bronchiolite, hein, c'est une infection des poumons, si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne suis pas médecin. C'est un virus qui s'appelle le VRS, le virus respiratoire 5-sitial, ouais. Et en fait, qui touche énormément les petits parce qu'en fait, leurs poumons sont immatures et ils n'arrivent pas en fait, à expulser les trucs eux-mêmes. Et en fait, ils sont très vite encombrés. Alors le problème, c'est que ça fait 35 000 hospitalisations de bébés chaque année en France. 35 000 hospitalisations de bébés chaque année en France, 2500 en soins critiques. Donc c'est chaud, quoi. Et puis, c'est redouté des parents parce que d'abord, c'est un peu chaud pour les enfants. Puis après, parfois, il y a des exercices de kiné respiratoire. Il y a un débat là-dessus d'ailleurs, mais qui sont assez spectaculaires par rapport à ce qu'on fait à l'enfant, quoi. Eh bien, pour la première fois, il y a une protection contre la broncholite du nourrisson qui va pouvoir être proposée aux parents. Voilà. Ça n'est pas un vaccin, c'est une injection d'anticorps qui permet aux enfants, voilà, dans une proportion très importante, de ne pas être infectés. Donc on se penchera là-dessus. S'il y a des nourrissons dans le chat, comme le de Monticlem, je serais très heureux d'en parler avec eux. Bah, d'ailleurs, il y en a. Voilà. Bonne nouvelle en matière de santé. J'essaie de vous en trouver de temps en temps. Dop, j'espère que je prononce bien. Merci pour le cinquième mois d'abonnement. C'est pas un vaccin. Oubliez l'histoire du vaccin, c'est pas un vaccin. C'est des anticorps. J'adore cette expression. La France moche. Ah, j'adore ça. C'est quoi la France moche ? La France moche. En France, il y a une France moche. Voilà. Je l'avais vaguement entendu, ça. Alors, je l'apprends parce que le gouvernement veut lutter contre la France moche. Il y a deux ministres aujourd'hui. C'est Olivier Grégoire et Christophe Béchu qui présentent aujourd'hui un plan contre la France moche, à votre avis. Non, c'est pas le Nord. Arrêtez. Non, arrêtez de dire des méchancetés. Non, ça n'est pas Créteil. Arrêtez. Non. Hein ? À votre avis, c'est quoi la France moche ? Mais non, c'est pas Paris. Mais non, c'est pas la Diagonale du Vide. Non, c'est pas Clermont-Ferrand. Non, c'est pas Vierzon. C'est sûrement pas la Bretagne. Non. Ce n'est pas la déchetterie. Non, c'est les zones. Non, c'est pas les zones industrielles. Voilà, quelqu'un qui a gagné. Voilà, dommage que j'ai rien à faire gagner. Touétine, tu as gagné. Ce sont les zones commerciales. C'est les zones commerciales autour d'un hypermarché, etc. Voilà. Bon, alors certains, après le goût, c'est très subjectif, hein, trouvent que c'est très très laid. Bon, en vrai, c'est pas formidable. Et donc, c'est ce qu'on appelle la France moche. Et le gouvernement propose un plan aujourd'hui. Non, c'est pas Rennes. Qui a dit ça ? Pour transformer les zones commerciales de périphérie. Alors, comment ils vont rendre, bravo Touétine, comment ils vont rendre les zones commerciales jolies ? Ça, je n'ai pas bien compris. Si, en fait, il y a des éléments. Mais en tout cas, le plan sera présenté aujourd'hui. Aurélien, merci beaucoup pour le 7e mois d'abonnement. 47 Alexia, oh, c'est gentil. Merci. J'espère que ce détachement se passe bien. 47 Alexia, je vois qu'il y a une nouvelle aventure professionnelle. Merci en tout cas pour ce soutien. Hotman 3, merci beaucoup également. Et The Cool Sheep 1, très cool, merci pour le Prime. Voilà. Donc, on se penchera sur cette France moche. Et puis, évidemment, qu'on va parler de rugby. On est parti pour 2 mois et 20 jours, 2 mois, 10 jours maintenant, de mondial de rugby, voilà. Donc à un moment, on va vivre ça. Que vous le vouliez ou non, bordel, on va s'intéresser à ce mondial de rugby. En vrai, c'est intéressant. Donc avec le succès de la France dans son premier match de poule contre les All Blacks. Bon, vous avez peut-être suivi ça, on dirait que c'était vendredi soir. Voilà. Je lis des commentaires sur le sport, j'adore. Donc ça c'est réussi. Le Figaro dit ouais c'est réussi, mais attention. Et maintenant, parce que petite faiblesse en défense, voilà, donc à voir. Mais globalement c'est plutôt pas mal ce qu'on a vu. Et puis quelqu'un me dit GG à Mathieu. Et ben voilà, ouais, je dis GG à Mathieu aussi. Voilà, immense salut à cet humain formidable qui est Mathieu Lartaud, qui est journaliste à France Télévisions, spécialiste passionné de rugby, qui dans sa jeunesse, adolescent, a eu un cancer à un genou, ce qui l'a empêché de devenir d'ailleurs rugbyman professionnel parce que c'était son rêve. Il est devenu journaliste passionné de rugby, et puis il a été rattrapé par le cancer il y a quelques mois. Il a été amputé il y a quelques semaines de la jambe droite, et il est déjà de retour, voilà. Les médecins disent que c'est un extraterrestre de retour pour commenter ce mondial pour France Télévisions. C'est une personne incroyable. On l'a reçu d'ailleurs dans l'hebdo Étienne la saison dernière, notamment pour parler du mondial de rugby. C'est un garçon incroyable. Vous le reverrez sur cette chaîne. Il reviendra à la maison. On se parle régulièrement. C'est quelqu'un dont je suis très admiratif et qui, aujourd'hui, découvre le handicap, un handicap lourd, et se rend compte, du coup, d'un truc dont on parle souvent ici. c'est que les infrastructures, les transports en France ne sont absolument pas adaptés aux personnes en situation de handicap physique, malgré des plans, mais compris du retard. Et là, Mathieu Lartaud, il est fâché, parce qu'il fait ce constat aujourd'hui, et il dit que c'est pas possible. Il dit, par exemple, l'accès aux matchs là, des personnes en situation de handicap, c'est n'importe. Il y a pire, oui, bien sûr, oui, Kalinos, je pense que tu peux trouver pire. Non, en vrai, c'est une honte. C'est une honte. C'est pas qu'il y a pire, oui, il y a peut-être pire. C'est une honte. Que la France en 2023 soit aussi peu accessible au quotidien pour les déplacements, les trottoirs, les transports en commun aux personnes en situation de handicap, c'est une honte. C'est une honte. Hein. À Paris, vous avez quoi ? Trois ascenseurs dans la capitale qui desservent des stations de métro. Trois, quatre, cinq peut-être. Et de toute façon, ils sont en panne. Voilà. C'est ça la réalité. Donc c'est une catastrophe et ça va pas du tout. Et Mathieu, il est fâché et il a bien raison. Voilà. Moi aussi, je suis fâché avec lui. Voilà. Quelqu'un me dit c'est pas un assez grand électorat, tu comprends. Bah oui, je pense que c'est le problème. Voilà, Tcheka dit 5 dont 4 qui ne fonctionnent pas, et je dis pas ça en l'air, parce que le Parisien récemment est allé voir ces 5 ascenseurs qui desservent les transports en commun, les métros à Paris, et effectivement le Parisien a constaté que sur les 5, les 4 étaient en panne, donc c'était dans le, je crois, dans le Parisien dimanche de la semaine passée. Voilà. Donc c'est juste n'importe quoi, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Ben voilà un chiffre, Zidalos, à Paris, seulement 3% des lignes sont accessibles pour les personnes en situation de handicap. Voilà. C'est juste, pardon, hein, c'est juste scandaleux, en fait. Voilà. C'est tout. J'aime bien cette vanne de un chasseur sachant. L'ascenseur, c'est une nouvelle technologie, hein, donc il faut laisser le temps au temps aussi. Hein. Bravo. On me dit qu'à Tokyo, par exemple, c'est Zidalos qui doit connaître le sujet, qui me dit qu'à Tokyo, c'est l'inverse, c'est 83% des transports en commun qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc, et c'est pas partout pareil, hein, parce qu'à Douai, me dit Hugo, il y a un ascenseur par voie pour les personnes handicapées. Tiens, c'est confirmé par Luc Humay, j'anticipe un peu sur le débat. La France est super en retard. Je suis allé voir un concert à Berne en Suisse avec mon père qui est handicapé. Du parking jusqu'au placement dans le stade, nous avons été accompagnés. Nous étions sur le cul par leur suivi. Bah oui, si tu es habitué au traitement des personnes en situation de handicap en France, c'est vrai que tu devais être bien sur le cul. Ouais. C'est chaud. C'est n'importe quoi. C'est honteux. Si je suis élu président en 2027, puisque c'est un des projets, ce sera une de mes priorités. Voilà. Voilà. C'est dit. Camillette, merci pour le 22e mois d'abonnement. Quoi ? Qu'est-ce qui va se présenter ? Oui, bah oui, je me présente. On peut faire un fromage. Tout le monde se présente. Hein. Présidentiel. Hein. Voilà. On a attrapé un petit peu notre retard. On a fait une intro un peu longue ce matin. 45 minutes d'échange et de retour sur ce qu'on a fait ces derniers jours. On s'est fait un petit sommaire. Une heure de stream, c'est parti. On est prêt pour la revue de presse pour la matinée. Étienne, prêt ? Bien sûr, Étienne, président. Bien sûr, on va faire ça. On va le faire ensemble. En fait, vous ne le savez pas encore, mais vous êtes mon comité de campagne. C'est grâce à vous que je vais être élu à la présidence de la République. Voilà. Comité de campagne bénévole. C'est par rapport, j'ai pas mal de faux frais en ce moment. Mais comité de campagne, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, le petit four, les petits fours, ouais. Il y aura des petits fours, mais vraiment pour les premiers arrivés. Vous êtes là, vous êtes 3200. Il y aura des petits fours pour les 5 premiers. Il faudra courir très très vite, quoi. Voilà. Camillette, merci beaucoup pour le 22e mois d'abonnement et le très gentil message qui me touche vraiment, vraiment beaucoup. Mais vraiment, ok. Donc tu vas me faire pleurer, donc on arrête. Et c'est parti pour la matinée Étienne. J'ai votre go, j'ai votre yes.
Oh yes.
Ok, c'est parti. Oh mais le puits du fou, j'ai la ref. J'ai la ref. Allez, c'est parti. Maroc. Maroc. Quasiment toutes les unes ce matin. Quasiment toutes les unes ce matin sur ce terrible bilan du séisme au Maroc. Le Parisien nous donne le dernier bilan hein, d'hier soir. Il a déjà sûrement évolué. 2100 morts et c'est un chiffre qui va encore s'alourdir. Donc les envoyés spéciaux du Parisien sont allés sur la route de la survie. John me dit qu'il était au téléphone avec son épouse marocaine quand c'est arrivé vendredi. Elle a eu très peur, mais elle est au sud, voilà, plus au sud, donc ça va. Ben, je suis bien content pour toi, John. Les envoyés spéciaux du Parisien sont allés dans les petits villages reculés, ravagés. C'est eux qui ont été le plus touchés, quoi. Des hameaux rasés, des familles décimées. Deux jours après le séisme qui a dévasté le Maroc, l'Atlas, donc, c'est la région de l'Atlas, hein, la chaîne de montagne, compte ses morts dans un paysage d'apocalypse. Plus de 2100 morts, c'est hélas un bilan qui va s'alourdir. Rendu public hier soir, le chiffre était attendu, le bilan du séisme est maintenant de 2122 morts et 2400 blessés. Oui, j'ai de la famille là-bas, mais par chance, cette famille qui vit toute l'année au Maroc depuis très longtemps pour certains, était de passage en France au moment du séisme. Une chance inouïe. Donc tout le monde va bien de mon côté. Et des proches aussi. Ce qui laisse craindre le pire pour les jours et les heures à venir, d'autant que très peu de villages parmi les plus touchés se trouvent dans des zones reculées et montagneuses. Le secteur le plus touché, donc c'est pas la ville de Marrakech qui a été la plus touchée, c'est celui d'Al Haouz. 1300 morts dans ce secteur, 1300 morts. Les zones autour de Chichawa et de Taroudant comptent aussi des centaines de victimes. Alors que les secours s'organisent avec le renfort de l'armée qui déploie ses moyens aériens, le royaume a annoncé avoir accepté l'aide de quatre pays, l'Espagne et le Qatar, je vous le disais. Puis, et vous aviez raison de me le signaler, également le Royaume-Uni et les Émirats Arabes Unis. Donc quatre pays dont l'aide a été acceptée. Quelqu'un me disait, oui, ils n'ont pas accepté l'aide de la France, mais en fait, ils acceptent aucune aide internationale. Ils ont accepté l'aide de quatre pays. Et là, on a un début de polémique, on va en parler. L'enjeu de ces renforts est clair, on parle des renforts qui vont arriver là, donc en provenance de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar, des Émirats Arabes Unis. Plus le temps passe, plus les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Voilà. Certains villages proches de l'épicentre, situés à 80 km au sud de Marrakech, c'est là que ça a tapé très fort, sont totalement détruits et seule la solidarité locale permet actuellement de tenter l'impossible. Le problème, c'est que non seulement ces petites localités ont pris très très fort, très très cher, mais en plus elles sont très difficiles d'accès, quoi. Alors je vois des commentaires intéressants, je trouve ça hallucinant de choisir les aides, pourquoi l'aide de la France n'a pas été acceptée, ben, on va en parler. On a un édito du Parisien qui l'évoque justement. Let's go, édito signé Henri Vernet. Qu'est-ce que ça dit ? Pourquoi donc le Maroc, alors que le monde entier, la France en tête, offre son aide, pourquoi le Maroc tarde-t-il, voire rechigne-t-il à saisir la main tendue, puisque la main tendue de la France, enfin, la proposition d'aide de la France n'a pas été acceptée, elle n'a pas été formellement refusée, mais elle n'a pas été acceptée, et puis il y a d'autres pays qui ont proposé leur aide, et le Maroc n'a pas non plus accepté. Dimanche soir, Rabat n'avait toujours pas officiellement réagi à la proposition du président Macron de déployer des équipes techniques et de sécurité qui pourraient décoller à la seconde où les autorités marocaines en feraient la demande. Donc ça n'a pas été accepté. Pourquoi on va en parler ? Est-ce que c'est en lien, ce silence, avec le froid diplomatique franco-marocain ? Sans doute ne faut-il pas surinterpréter, dit le journaliste. Il faut compter avec les contingences logistiques, l'impératif de coordonner aussi l'assistance internationale, d'éviter les doublons encombrants et l'engorgement dans les aéroports, parce qu'il y a un précédent lors d'une catastrophe il y a quelques années au Maroc. En fait, ils avaient accepté beaucoup d'aide et ça avait été un vrai bordel, en fait. Donc, ok. Il n'empêche, dit le Parisien, il y a bien, même si cela peut paraître cynique au regard de l'urgence du drame humain, des considérations diplomatiques. Ainsi, n'est-ce pas un hasard si certains pays comme le Qatar et l'Espagne ont reçu dimanche un feu vert à leur offre de service. Le roi Mohamed VI est proche de l'émir du Qatar et Rabat vit une lune de miel avec Madrid, avec l'Espagne, depuis que l'ancienne puissance coloniale s'est décidée, contrairement à Paris, à soutenir la revendication marocaine sur le Sahara occidental, qui est un vieux, vieux conflit, ce que la France aujourd'hui refuse. C'est aussi un enjeu d'image, de fierté patriotique. Puissance régionale, grand rival de l'Algérie, le Maroc veut montrer qu'il est capable de gérer une catastrophe, de contrôler l'assistance étrangère sans laisser débarquer en masse des ONG de tel ou tel pays. ce qui a pu se passer dans le passé. Bref, le Maroc n'est pas Haïti et a failli submergé par le tremblement de terre de 2010. Voilà. Donc, il y a des raisons diplomatiques, selon le Parisien, pour refuser cette aide, notamment de la France. On passe à Libération, mais je vous lis d'abord sur ce sujet. Alors, il y a Spongy qui dit « C'est vraiment fatigant en tant que Marocain d'écouter ce genre de choses des médias français. » Alors, moi, je te lis ce que les journaux évoquent ce matin. Pour le coup, c'est un fait. C'est un fait. L'aide française n'a pas été acceptée. Donc, ça pose question quand même. Ça pose question. Moi, je suis un amoureux du Maroc. Je suis un ami du Maroc. C'est un pays que j'adore. J'adore ce pays. J'adore ce peuple, sa culture. Mais là, c'est une info, quoi. Merci à la cabane de l'Islandais pour le 9e mois d'abonnement. Alors, Raton Rieur dit « Est-ce que le gouvernement marocain ne risque pas de s'attirer les foudres de sa population en sélectionnant les aides pour des raisons politiques ?» C'est un peu évoqué dans Libération dans un instant. Certains estiment que l'histoire des relations tendues diplomatiques, pour les raisons qu'on peut évoquer d'ailleurs, hein, pourquoi c'est tendu, il y a la question du Sahara occidental, donc il y a la question d'une sombre affaire d'espionnage menée par le Maroc il y a quelque temps, et puis il y a l'histoire des visas aussi, ça s'est un petit peu arrangé, mais et pour contraindre les pays du Maghreb à accepter les gens que la France veut expulser, notamment après des condamnations, parce que les pays du Maghreb en fait ne veulent pas non plus de récupérer ces gens sur leur sol. En fait, à un moment, la France a énormément durci sa politique de visa auprès des étudiants, des gens qui voulaient juste visiter des proches en France, voilà, et ça a beaucoup tendu les relations entre les deux pays. Voilà. Certains estiment que c'est pas du tout pour des raisons diplomatiques, c'est juste que voilà, c'est pour éviter le bordel. Voilà, c'est ce que dit Spongy. L'aide française n'est pas la seule. Les routes sont bloquées. Trop d'aide peut tuer l'aide, comme on l'a vu à Haïti en Turquie. Le fait est aussi que la France est le seul pays à polémiquer sur le sujet, dit Ismols. Alors, les autorités françaises ne polémiquent pas sur le sujet, a priori. Enfin, ou alors j'ai loupé la déclaration d'un ministre. Les médias posent la question. Ouais. D'accord, mais est-ce qu'ils avaient besoin de plus d'aide, dit Macaire. Dans vos journaux ce matin, vous avez des Marocains qui disent qu'ils sont seuls, isolés, qu'il n'y a aucun secours, qu'il n'y a personne. Voilà. Et ça gueule, hein, ça gueule contre le pouvoir. Donc est-ce qu'ils ont besoin de plus d'aide? Il semblerait. Ayamu écrit dans notre chat, en tant que Marocaine, je vous avoue ne pas comprendre ce refus. Les populations sont livrées à elles-mêmes et auraient grandement besoin de cette aide. Salut Elbus Clara, bienvenue. Voilà, bon, ça c'est une polémique. On verra si ça s'éclaircit un petit peu. Alors, Libération pose la question de l'après quand même. Hein. Éditorial d'Alexandra Schwarzbord est écrit « Le royaume a-t-il voulu prendre son temps ?» Ah bah vous voyez, c'est le sujet qu'on évoque. « Afin d'éviter une pagaille de l'aide humanitaire comme celui ce qui lui a été reproché après le séisme de Al-Hoceima en 2004. S'est-il, alors ça c'est donc l'hypothèse de la pagaille à éviter, s'est-il laissé déborder par l'ampleur de la tâche ?» D'autant que le roi était absent au moment où le drame s'est produit, puisqu'il semblerait que le roi Mohamed VI était en France au moment du tremblement de terre. Ou, question de Libération qui n'a pas la réponse, hein, où a-t-il, le roi, délibérément choisi de faire lanterner ceux avec qui il est en froid diplomatique? Conclusion de l'édito, tôt ou tard, l'heure du bilan sonnera. Avec son lot de responsables à incriminer, est-ce que certains ont bien fait leur boulot, voilà. Il semblerait quand même que les secours ne soient pas assez rapides, hein, c'est ce que dit une partie de la population. Tôt ou tard, l'heure du bilan sonnera avec son lot de responsables à incriminer sur la lenteur de l'acheminement des secours ou sur les normes parasismiques peu respectées en certains endroits. C'est un truc qu'on a vu en Turquie aussi il n'y a pas très longtemps. Et sur cette histoire de normes antisismiques, on va lire des choses dans, notamment dans l'humanité dans un instant. Je vous lis un petit peu. Je remercie Mad Kassowari pour le 10e mois d'abonnement. Je remonte dans le chat parce qu'il y avait une information sur une annonce qui a été faite ce matin par Catherine Colonna que certains évoquent à raison. C'est Mimich qui me la met dans le chat. Déclaration de Catherine Colonna ce matin sur le Maroc est seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que les réponses soient apportées. Donc vous voyez que les autorités françaises ne polémiquent pas. Nous sommes à la disposition des autorités marocaines. Nous faisons toute leur confiance pour organiser les secours de la façon qui leur paraît la meilleure. Donc du côté des autorités françaises, il n'y a pas officiellement de volonté de polémiquer. Quoi. C'est les médias qui posent la question. Alors quelqu'un me dit que la déclaration de Catherine Colonna c'est un peu un game changer sur cette polémique en disant oui, il n'y a pas de polémique, je suis pas d'accord. Quand Catherine Colonna annonce une aide financière de 5 millions d'euros pour les ONG locales, françaises et internationales présentes au Maroc, ça le Rabat ne peut pas le refuser. Le Maroc ne peut pas le refuser, c'est une aide de la France aux ONG sur place. Bon bah là pour le coup, il n'y a pas de gens qui se déplacent, il n'y a pas d'autorisation à donner par le Maroc. On est toujours a priori sur une proposition d'aide de la France en termes d'équipe de secours qui n'est pas acceptée par... Par le Maroc. Voilà. Bon, on y reviendra. Mais j'ai envie de dire, l'essentiel, il est peut-être ailleurs, l'essentiel c'est de comprendre pourquoi ce séisme violent mais pas si violent que ça. Il y a des séismes beaucoup plus violents, qui font beaucoup moins de victimes dans d'autres pays. Pourquoi ce séisme s'est produit là, hein? Est-ce que c'est une zone sismique? Pourquoi le bilan est si lourd et qu'est-ce qui aurait pu l'éviter? Et là on va être sur la question des constructions et des normes parasismiques. Donc le Figaro nous éclaire là-dessus. Alors effectivement la région, le Maroc, notamment cette région, peut être touché par des séismes, mais un, rare, deux, intense. C'est parti, hop, je zoome un petit peu. La région du Haut Atlas marocain, donc frappée par le séisme dans la nuit de vendredi à samedi, est assez loin quand même, hein, 500 km, plus de 500 km de la limite entre les plaques tectoniques africaines et eurasiennes, donc assez loin de la zone de friction. Et pourtant, les secousses ont été très violentes avec une magnitude estimée à 6,8. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben c'est ce qu'on appelle un séisme intraplaque, dit un sismologue. Le site est loin, 500 bornes, de la limite entre les plaques, là où se concentre la majeure partie de l'activité sismique. Mais le socle géologique de la région, composé de roches sédimentaires assez fragiles et déformables, subit tout de même des contraintes. À cet endroit, le déplacement de la plaque africaine vers le nord est très lent, de moins d'un millimètre par an, ce qui fait que les contraintes peuvent s'accumuler dans les sols pendant des dizaines d'années avant la rupture. Donc c'est très très lent. Donc des séismes pas fréquents, mais du coup quand ça lâche, quand ça pète très fort. Dans cette région, les séismes ne sont pas très fréquents, mais ils peuvent être intenses, comme celui-ci. Le Maroc est un pays où l'activité tectonique est modérée mais non nulle, bien qu'il soit moins exposé que les pays de l'Est et de la Méditerranée, tels que la Turquie, endeuillée il n'y a pas très longtemps, et la Grèce, où le risque de séisme est beaucoup plus important. Pour le Maroc, d'ailleurs, la zone la plus sismique est plus au nord, bien plus au nord, le long de la Méditerranée, là où les deux plaques tectoniques se rencontrent. C'est là que se produit, par exemple, le tremblement de terre d'Al Hoceima en 2004, dont on parlait tout à l'heure, magnitude 6,4, plus de 600 victimes, donc moins de morts qu'ici. Et puis c'est, en revanche, beaucoup plus au sud, en bordure du Haut Atlas à Agadir, que s'est produit en 1960. Alors un séisme qui a été destructeur, qui a été ultra meurtrier à Agadir, avec un bilan de 12 000 à 15 000 morts. 1960 Agadir. Alors si vous allez à Agadir, vous avez la première fois qu'on m'a expliqué l'histoire, je dis waouh, waouh, une inscription sur une colline en arabe qui fait une énorme inscription qui justement renvoie au drame. En fait, Agadir a été reconstruit pas au même endroit, quoi. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est là. Comment je la trouve? Comment je trouve cette photo bien là? Bon, peut-être un Google Photo, ça me le tienne. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait. Quand vous êtes à Agadir, vous voyez cette colline là, avec l'inscription en fait qui, d'après ce qu'on m'a expliqué, fait référence justement à ce séisme. Et la ville d'Agadir a été reconstruite, mais pas au même endroit. Voilà. Le séisme d'Agadir. Hop, je reviens à l'article. Merci Red Metal 31 pour le 5e mois d'abonnement. Merci Mad Kassowari encore pour le 10e mois. Le séisme d'Agadir avait une magnitude donc estimée à 5,8. Un point de moins que celui de vendredi soir. Voilà. Mais l'épicentre à Agadir était beaucoup plus proche de la ville. En fait, il était situé sous la ville. C'est pour ça que ça a été si violent. Et à faible profondeur, 10 km. Les sismologues maintenant surveillent les répliques qui pourraient survenir dans la région, parce que c'est notamment pour cette raison que beaucoup de Marocains actuellement dans la région dorment dans la rue. Les répliques sont en général moins intenses que la secousse principale. Néanmoins, après un séisme de magnitude 6,8, on peut avoir des répliques à 5 ou à 6, voilà, sur des constructions déjà fragilisées. Cela peut faire de nouvelles destructions et accroître le bilan humain. Et maintenant, on va se pencher justement sur une des raisons de ce très lourd bilan, c'est-à-dire le fait que les habitations n'étaient pas construites pour des raisons de coût, ça me semble évident, sur des normes parasismiques qui auraient pu empêcher nombre de constructions de s'écrouler. Là, une de l'humanité, vous voyez la désolation. Et vous voyez cet éclairage dans l'humanité qui est bien foutu sur le bâti marocain au défi des risques sismiques. Les petits villages marocains du Haut Atlas, proches de l'épicentre, ont été entièrement détruits. C'est là qu'il y a les morts. Hein. La qualité des constructions souvent anciennes, la non-application des normes parasismiques explique l'ampleur des dégâts. Merci beaucoup. Alors, ça commence là. Bâtiment effondré. Immeuble éventré, mur écroulé, le puissant séisme a laissé donc place dans certains villages à un paysage de désolation. Le Maroc, qui a connu deux séismes importants, donc on en a parlé 1960-2004, a renforcé sa réglementation antisismique en 2011 pour rendre les habitations plus résistantes. Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Turquie. Mais les zones où les constructions sont les plus anciennes ont été les plus touchées. À Marrakech, le minaret, par exemple, de la mosquée de la place Gemaa Elfna, qui est un haut lieu du tourisme local, n'a pas résisté aux secousses, tout comme les rues de la Médina, le cœur historique de la ville. Mais si dans les zones rurales, montagneuses au sud-ouest de Marrakech, difficilement accessibles par ailleurs, que les dégâts sont les plus importants, là où les maisons ont été construites de manière traditionnelle, avec en pierre, en terre, dans la province d'Al Aouz, où se situait l'épicentre du séisme, et celle de Taroudante, des villages entiers ont été détruits. Je salue Lord Savage qui habite à Marrakech, qui a passé 48 heures à Moul Ebrahim, dans un petit village au sud, pour venir en aide. Aujourd'hui, je voulais juste me changer les idées sur Twitch. D'accord, tu poses une question sur le stream d'hier soir. J'y reviendrai tout à l'heure si tu veux, mais voilà, force à toi et bravo pour l'aide que tu as apportée dans ce village. Donc ce sont, c'est ce qu'a déclaré l'écrivain marocain, franco-marocain Tahar Ben Jelloun, qui a écrit La Nuit Sacrée, je crois, qui est un très beau livre. Il dit, ce sont d'abord des pauvres qui sont morts, des paysans qui ont construit de leurs mains leur maison. Pour construire des étages supplémentaires, les habitants, notamment les plus défavorisés, posent souvent des dalles de béton sur des murs fragiles en briques crues pour élever la maison, pour avoir plus de place. Donc sans fondation, s'explique un architecte marocain, et à la moindre vibration, eh bien, les murs s'effondrent. Alors ça, c'est important pour comprendre ce très très lourd bilan, puisque vous avez des pays, bon, si vous connaissez un peu le sujet, comme le Japon, comme le Chili, où j'ai vécu à Santiago un séisme très important il y a quelques années, où la Terre peut trembler beaucoup plus violemment qu'ici, et faire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de morts. Mais ça, vous le savez. Voilà. Évidemment, c'est pas une loi de 2011 qui décrète de nouvelles normes parasismiques qui va reconstruire d'un claquement de doigts l'intégralité des logements du pays. Donc à supposer même, ce qui n'est pas sûr, mais à supposer même que toutes les constructions neuves depuis 2011 respectent ces nouvelles normes, il est évident que grande partie du pays n'y répond pas. À Santiago, les normes sont plutôt respectées, tout à fait avec les autres. Ouais. Moi, j'ai vu à Santiago des immeubles, des gratte-ciels trembler, enfin bouger, onduler. Enfin, c'était surréaliste. Et puis, et reprendre leur place initiale, parce que c'est fait pour, quoi. Je vous lis un petit peu. Salut Arnaque-moi si tu peux. Bravo pour ton boulot et j'espère que tu vas bien. Merci Zabouza 2912 pour le Prime. Merci beaucoup pour le soutien. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vois beaucoup de messages sur. Je trouve intéressant le message de. Ouais, attends, je le recherche, je le retrouve sur laisser les Marocains faire comme ils veulent. Je retrouve ton message que je trouve intéressant. Où est-il? Je vais le retrouver. Pas beau de vie, hein. Peut-être que je remonte un petit peu. Oh, mais Samuel, il a disparu ce message. Il était bien pourtant. Bref, quelqu'un disait, pardon de ne pas retrouver ton message, laissez les autorités marocaines décider de qui doit les aider ou pas, c'est pas chez vous, bref. Oui, j'entends bien. La question est de savoir si cette décision, c'est le roi qui la prend, hein, le pouvoir au Maroc, il est concentré dans les mains du roi, hein, vous le savez. Donc c'est une décision que prend le roi Mohamed VI. Alors certes, c'est un pays souverain, il fait ce qu'il veut. Après, n'importe quel citoyen du globe, français, belge, français, américain, japonais, algérien, que sais-je, est en droit de se poser la question de savoir si le roi Mohamed VI a pris la bonne décision pour son peuple. Il a le droit, citoyen du monde, ta noblesse, c'est de t'intéresser pas seulement à ce qui se passe sur ton palier, mais également ce qui se passe dans le monde. Et tu as le droit de t'interroger, tu as le droit de le faire. C'est la question qui va se poser d'ailleurs, là. S'il s'avère que, si d'ailleurs, gros si, c'est pas sûr, s'il s'avère, et on le saura, que le roi Mohamed VI a refusé l'aide de certains pays pour des raisons de diplomatiques, de tensions diplomatiques, ou de fierté nationaliste, et qu'il est avéré que ces secours auraient, conditionnel encore, sauvé des vies, ça peut être assez mal ressenti, perçu par le peuple marocain. Mais je ne vais pas plus loin parce qu'on est beaucoup dans le si, dans les conditionnels, et on n'est pas là pour faire de la fiction. Donc on verra bien ce qui se passe. On en parlera à ce moment-là. Hein. Dur à cuire, merci beaucoup pour le sixième abonnement. Et si je peux me permettre, c'est un joli pseudo. N'a plus Jojox, merci. Je te même compliment, merci pour le prime. Allez. Dernière question. Est-ce qu'on peut prévoir cette catastrophe? Est-ce qu'on peut prévoir un séisme? Je vous fais la réponse très court. Je suis allé chercher un article du Parisien dimanche. Non, on ne sait pas aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, on ne sait pas prévoir, annoncer un séisme. On ne sait pas. Voilà. On peut dire telle zone est à risque, hein, mais on ne peut pas prévoir où précisément, là on est à 500 km de la zone de frottement, hein, où précisément, quand, on ne sait pas non plus. Et avec quelle force? On ne sait pas. En fait, on ne sait rien. Voilà. De mémoire d'homme, jamais un séisme n'avait secoué le sol du royaume avec autant de violence. Il est historique. Hein. Je ne suis pas sûr que le territoire marocain ait déjà connu des secousses de cette importance, dit un sismologue. Les seuls pour lesquels j'ai des doutes sont ceux du XVIe et XVIIe siècle dans la ville de Fès. Ce tremblement de terre n'a en revanche peu étonné les spécialistes. Il est parti du Haut Atlas, une chaîne de montagnes étudiée en tous sens pour son activité sismique. Donc pas de surprise, indique un chercheur, et surtout sur une ligne de déformation active, la plaque africaine remonte vers la plaque eurasiatique de quelques centimètres par an. Or cette compression, mal et faille sous pression, elle relâche épisodiquement leur énergie, causant donc des tremblements de terre. Dans ces conditions, puisqu'on sait que la zone est à risque et sismique, est-ce qu'on n'aurait pas pu alerter la population, demande le Parisien, comme pour les cyclones? Non, on ne sait pas le faire, hein, dit un sismologue de Strasbourg. Il n'y a pas de recette pour prédire l'amplitude d'une secousse, ni le moment où elle se déclenchera. On ne sait pas faire ça. On utilise juste une méthode de probabilité en établissant des zones à risque. Et en France, il y a des zones à risque. Je vous lis un petit peu là-dessus, et puis on passe à Elon Musk. Alors ça, je sais que ça va provoquer des débats dans le théâtre, c'est intéressant. Acteur erratique, dit Le Monde, c'est-à-dire acteur dont on ne peut pas prévoir le comportement dans la guerre en Ukraine. Voilà, mais d'abord je vous lis sur le Maroc. Putain, j'ai dormi 2 heures cette nuit, j'espère que ça se voit pas trop, mais j'ai un peu de mal, je vais me relancer avec un petit café dans quelques minutes. Ne forcez pas trop les arguments, parce que quand vous forcez un peu trop les arguments, vous, à mon humble avis, hein, vous affaiblissez votre démonstration. Par exemple, quand tu dis Tchernosaurus, qui est un habitué de la chaîne, donc si une catastrophe arrive en France et que les Russes proposent de l'aide, est-ce qu'il faut l'accepter? Je ne pense pas que ce soit le meilleur exemple. D'abord, je ne suis pas sûr que la France, en raison des moyens disponibles dans le pays, puisse avoir autant besoin que le Maroc d'aide, voilà. Mais à supposer que les catastrophes soient énormes et que la France ait besoin d'aide, je ne suis pas sûr qu'on accepte l'aide d'un pays qui est actuellement engagé dans une guerre alors qu'on soutient le camp adverse. Je ne suis pas sûr que ce soit l'exemple idéal pour nous convaincre, en fait. Je ne pense pas. T'aurais pu trouver plus... Pourquoi j'ai dormi 2 heures? Bon, parce que stream hier soir, donc 23h30, parce que après je suis resté discuter avec Tonton parce qu'il est trop, le mec est trop cool. Et puis et donc après je devais me lever très très tôt ce matin pour lire les journaux et pour emmener ma petite tuture à la révision. J'ai une vie passionnante à 7h30 et nos petits garçons ont un peu mal au ventre en ce moment. Enfin, le petit dernier beaucoup et il a très mal la nuit, donc voilà. Donc la nuit a été très hachée, donc je devais dormir 3h ou 2h30 et en fait ça a été un peu moins que ça. Donc j'ai un petit peu de mal au niveau de l'articulation, mais je fais des efforts. Je suis très concentré. On y reviendra sur le Maroc. Voilà. Bah justement, on parlait de la Russie et de la guerre en Ukraine. On y va. C'est la dernière une du monde, hein, sur Elon Musk. Rien que ça. Elon Musk, acteur erratique dont on ne peut pas prédire le comportement dans la guerre en Ukraine. Pourquoi le Monde écrit ça? Le milliardaire américain a refusé d'activer l'an dernier son réseau de satellites Starlink, contrairement à ce qu'avaient demandé les autorités ukrainiennes, avant une importante attaque ukrainienne. Voilà. Les Ukrainiens voulaient lancer une attaque de drones marins contre la flotte russe, a demandé à Musk, qui avait pourtant équipé les forces ukrainiennes en réseau satellite Starlink, d'activer le réseau sur la zone. Il a refusé, et d'ailleurs il s'en est expliqué, il a dit pourquoi. Peut-être que vous serez d'accord avec lui d'ailleurs. Issu d'une biographie apparaître la semaine prochaine et confirmer cette info par le patron de SpaceX et de Tesla, cette révélation a provoqué la colère des Ukrainiens. Kiev, qui jusque-là avait plutôt profité d'ailleurs de Starlink, qui a facilité les communications de terrain, la géolocalisation des cibles et l'usage de drones. Une affaire qui met en lumière, on va en parler, la dépendance de Kiev et de ses alliés vis-à-vis d'un acteur privé. Et imprévisible, qui résonne selon ses intérêts. Alors pourquoi acteur erratique? Parce que le Monde estime que Elon Musk ne serait conditionnel, ne serait pas constant dans son soutien aux Ukrainiens. Lisons C'est assez complexe, mais c'est passionnant. Vraiment, ce papier est passionnant. C'est page 2 dans la dernière édition du Monde. Musk, imprévisible, donc erratique, acteur du conflit ukrainien, le milliardaire a donc empêché en 2022 une attaque contre la flotte russe en refusant d'activer son réseau Starlink. On va voir. C'est désormais une certitude. Écrit la correspondante à Washington, le correspondant à Washington du Monde, Musk a délibérément bridé les capacités militaires offensives de l'Ukraine. En 2022, le PDG américain a refusé d'activer le réseau de satellites de télécommunications Starlink exploité par SpaceX au-dessus de zones situées dans la mer Noire et la péninsule de Crimée, occupée par la Russie depuis 2014 et dont la reconquête est affichée par Kiev comme l'un de ses buts de guerre. En agissant ainsi, le magnat a empêché une attaque de drones navals ukrainiens contre les navires de guerre russes qui étaient basés dans le port de Sébastopol. L'affaire a été révélée par un journaliste américain qui a publié le 12, donc c'était... Ah, qui publie aujourd'hui d'ailleurs. Donc, pourquoi ils disent le 12 septembre ? On est le 12 ? Non, c'est demain. Ah, peut-être que... Ah oui, donc on a l'info, mais l'interview est publiée demain. Ok. Qui publie donc demain, ok, j'ai compris. Une biographie, le livre sort demain en fait, autorisé. De Musk, en fait, qui d'ailleurs ça s'appelle Elon Musk. Elon Musk d'ailleurs a donné son feu vert à cette biographie. Selon cette enquête, l'Ukraine aurait donc tenté en septembre 2022 d'attaquer la flotte russe de la mer Noire avec 6 petits drones navals bourrés d'explosifs, pilotés à distance via une liaison satellite. Ces drones n'auraient jamais atteint leur cible, leur connexion avec le réseau Starlink n'ayant pas été activée à l'approche de la Crimée. Dans un extrait de la fameuse biographie dont je vous parle, qui a été publié jeudi dernier par le Washington Post, le journaliste affirme qu'Elon Musk s'était entretenu au préalable avec l'ambassadeur russe à Washington, qui lui aurait dit qu'une attaque ukrainienne contre la Crimée conduirait à une réponse russe nucléaire. Musk aurait donc secrètement dit à ses ingénieurs de désactiver la couverture de Starlink dans un rayon de 100 km autour de la côte de Crimée. Là, c'est pas très clair. Puisque le journaliste dit désactiver la couverture de Starlink autour de la côte de Crimée, alors qu'a priori, il semblerait plutôt que c'est un refus d'activer la couverture. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui n'est pas la même chose. Ok ? Bon. En conséquence, lorsque les drones ukrainiens sont approchés de leur cible, de la flotte russe à Sébastopol, eh bien, ils ont perdu la connexion. Ils sont allés s'échouer et ils n'ont pas causé de dégâts. Musk n'a pas démenti ces informations. En fait, il a confirmé. Les autorités gouvernementales ukrainiennes ont demandé en urgence d'activer Starlink jusqu'à Sébastopol. L'intention évidente était de couler la majeure partie de la flotte russe, a déclaré Musk sur son réseau social X. Et il s'en explique. Si j'avais accédé à cette demande, alors SpaceX aurait été explicitement complice d'un acte de guerre majeur et d'une escalade du conflit. Se justifie-t-il sur X. Le journaliste explique que Musk craignait que Kiev inflige un mini Pearl Harbor à la flotte russe et que Moscou réponde par une frappe nucléaire. À peine dévoilée, l'information a été vigoureusement dénoncée par Kiev, qui ont déclaré en ne permettant pas aux drones ukrainiens de détruire une partie de la flotte militaire russe, Musk a permis à cette flotte de tirer des missiles de croisière sur des villes ukrainiennes. Résultat, des civils et des enfants sont tués. Autorité ukrainienne qui ajoute, c'est le prix d'un cocktail d'ignorance et de gros égos. De ce côté, un ancien président russe, Dmitri Medvedev, qui est un ancien proche de Poutine, a estimé que si ce livre disait vrai, alors il semble que Musk soit la dernière personne saine d'esprit en Amérique du Nord, ou à tout le moins dans une Amérique neutre en matière de genre, lui a des couilles. Bon, déclaration un peu particulière de M. Medvedev, je vous la recite quand même parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes. Il semble que Musk soit la dernière personne saine d'esprit en Amérique du Nord, ou à tout le moins dans une Amérique neutre en matière de genre. Bon, tout ce que ça a à faire là-dedans. Lui a des couilles. Bon, c'est un style un petit peu fleuri, un petit peu particulier, on va dire. Voilà. En octobre 2022, Musk avait déjà été accusé d'avoir coupé l'accès à son réseau Starlink au-dessus de certaines parties de l'Ukraine en proie des combats, privant les forces armées de Kiev de connexion à Internet. À l'époque, Musk avait expliqué qu'il ne pouvait pas continuer à financer indéfiniment le système existant et envoyer des milliers de terminaux supplémentaires sans contrepartie. Je ne sais pas si vous le rappelez de cet épisode. Il y a eu des échanges entre l'entreprise de Musk et le Pentagone, dont la teneur n'a jamais été révélée. Et finalement, les liaisons ont été rétablies. Jusqu'à cette date, Musk avait plutôt aidé l'Ukraine face à l'agression russe. Au début du conflit, alors que Moscou avait lancé une vaste cyberattaque contre le système de communication de Kiev, le réseau Starlink était apparu comme un recours de premier ordre. Il a facilité les communications de terrain, les échanges avec les centres de commandement, la géolocalisation des cibles, l'envoi d'images par drone. Donc Musk avait participé quelque part à l'effort de guerre ukrainien. Pour donner des chiffres, entre mars et juillet 2022, Elon Musk a permis l'envoi de 15 000 terminaux, en grande partie gratuits, accompagnés de batteries, de panneaux solaires portables. Il y aurait actuellement plus de 100 000 stations Starlink sur le terrain ukrainien. Technologie qui a changé cette guerre, a reconnu le ministre ukrainien de la transformation numérique. J'ai une petite fin d'article à vous lire, mais je vous lis vous d'abord. Bonne première fois, Lucas. J'espère que tu vas bien. Il y a Cominio qui estime que c'est choquant et irresponsable qu'une nation mette une partie de son pouvoir militaire entre les mains d'une entreprise privée. Ben, le Monde en parle dans un instant. Le Monde est un peu de ton avis d'ailleurs. Brian Eos, je n'avais pas vu, merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement. Néo est un peu jalouse. Il me dit j'aurais aimé que ça me dise bonne première fois à l'époque, bonne première fois à toi. Bah, avec du retard. Pardon. Allez, je vais à la fin de l'article. Qui dit quoi ? Elon Musk est un acteur privé, ouais, dont la technologie a donc surgi au milieu d'un conflit avec une force novatrice incomparable, mais est-il un partenaire digne de confiance pour les États occidentaux ? Le livre du journaliste américain met en exergue son ego, sa vanité, son caractère erratique. Peu après avoir bloqué l'opération navale ukrainienne, Musk avait d'ailleurs annoncé son propre plan de paix pour l'Ukraine, il l'avait annoncé sur Twitter. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait Twitter, qui n'avait intéressé personne. C'est vrai que ça n'a pas tellement été chaleureusement accueilli. Qu'est-ce qu'il proposait dans ce plan ? Élections dans les territoires annexés, la Crimée donc pour la Russie, un ravitaillement en eau assuré pour la péninsule et enfin un statut neutre pour l'Ukraine. Les Ukrainiens avaient dit « Ton plan, Musk, tu sais où tu peux te le carrer ?» C'est littéralement ce qu'il leur avait répondu. C'est une vulnérabilité de dépendre d'un acteur extérieur, c'est ce que nous disait quelqu'un dans le chat. C'est également ce que dit Isabelle Dufour, qui est chercheuse, qui est directrice en études stratégiques. C'est une vulnérabilité de dépendre d'un acteur extérieur pour par exemple, dans le cadre d'un conflit, que ce soit une milice, tiens, Wagner par exemple, ou un acteur privé. Elon Musk a assuré que sa constellation de satellites de télécommunications ne devait pas être utilisée pour mener des actions offensives. Starlink n'a pas été conçu, dit-il, pour être impliqué dans des guerres. C'était pour que les gens puissent regarder Netflix et se détendre, se connecter à l'école, faire des bonnes choses pacifiques, pas des frappes de drones, se justifie-t-il aujourd'hui. SpaceX, pourtant, relève le Monde, le journal, expose régulièrement ses équipements Starlink dans les salons de l'armement. Si cette info est vraie, si Starlink expose régulièrement son matos dans les salons d'armement, c'est vrai que cette déclaration de Musk, elle semble un petit peu étrange. Afka TV, merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement. À suivre. Des bonnes nouvelles dans l'actu, j'en trouve parfois. Il y en a une contre, à propos de la bronchiolite du nourrisson, c'est une bonne nouvelle pour les parents. Le gouvernement part en guerre contre la France moche. Qu'est-ce que c'est la France moche ? C'est pas la France ou une région en France où il y aurait plus qu'il y a des gens moches, ce n'est pas ça, c'est une histoire de centre commercial, on va se pencher là-dessus. On fera enfin une grosse, bonne grosse page de rugby avec plein d'infos intéressantes sur le mondial. Après un café, parce que je suis littéralement en train de m'endormir, j'ai vraiment pas assez dormi cette nuit, mais pour de bonnes raisons. Je vous retrouve dans 3 minutes avec le plein de café. Certains font le plein de super, ce sera le plein de café, on se remet un petit peu d'eau, et puis on lit, on parle de la bronchiolite, on parle de la France moche, j'adore ce truc, et on parle de rugby. Je vous mets une petite musique pour les abonnés, une mini pub pour ceux qui ne le sont pas. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme musique? Et je vous dis à dans 3 minutes, merci d'être là, bande de belles personnes. Ça peut-être, on peut mettre ça. Ok, c'est pas mal, on fait ça. A tout de suite, à tout de suite. Bougez pas, hein, je reviens tout de suite. C'est à moi là. Parce que c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. On est sur un bon timing. Je suis allé chercher le café, je suis allé voir les petits mails des amis. Je sais pas si vous voyez qui est Ted Etienne. Vous connaissez Ted Etienne. Et bien Ted Etienne sera bientôt dans l'hebdo Etienne. Je vois que Defend Intelligence, vous savez, c'est ce streamer, notamment streamer, mais pas seulement, qui est ingénieur par ailleurs, et qui s'est pris un gros ban, qui était def, mais qui a été levé de Twitch à cause de son IA du président Macron, qui a dit des trucs qui n'ont pas plu à la modération Twitch. En fait, Defend Intelligence sera également dans l'hebdo Etienne bientôt. Voilà. Non, c'est pas mon frère, Ted Etienne, mais il sera là. Non, c'est pas mon cousin. Ouais, mais il sera là. J'essaie de vous caler de nouvelles personnes aussi. Non, il s'est pas fait reban. Ah non, il s'est pas fait reban, il s'est fait unban. Il s'est encore fait ban ? Non. Ne me dites pas que Defend Intelligence s'est fait reban. Je n'ai pas l'info. Parce que j'ai pas le droit de recevoir dans ce cas-là. Parce que tu peux pas donner la parole à un streamer qui est ban. C'est interdit. Mais oh, Houblon Nippon, comment ça va? Non, moi aussi j'aimerais sur The Witcher, mais il faut faire l'actu, quoi. Ouais. Merci. Je parlais de toi récemment. Merci Tatouf Métouf 78 pour le 25e mois d'abonnement. Ah bah voilà. Alors comme ça, on parle de moi dans l'hebdo Etienne? Ouais, je parlais de toi. Ouais, bon allez, bonne nouvelle, hein, parce que vous me faites remarquer régulièrement, et vous avez bien raison de le faire d'ailleurs, que c'est bien beau les mauvaises nouvelles, les drames, les crises, les catastrophes, les... Pff, hein, que de temps en temps, dans l'actualité, il y a peut-être des trucs positifs, de temps en temps, bah je vous ai trouvé un truc cool. C'est dans les pages santé du Figaro, aujourd'hui, ce lundi, enfin une protection contre la broncholite du nourrisson. Alors ça, les parents connaissent bien, hein, c'est vraiment une saloperie. Les nouveau-nés peuvent enfin recevoir une injection d'anticorps contre la maladie. A priori, semble dire le Figaro, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Let's go. Les parents attendaient depuis longtemps une arme efficace dans la prévention contre la bronchiolite. Moi, j'ai de la chance parce que mes petits n'ont jamais eu ça. À partir de vendredi, là, ils pourront faire immuniser leur bébé contre le virus respiratoire syncytial, le VRS, qui est responsable de cette maladie, qui a entraîné l'an dernier, écoutez, c'est ouf, 35 000 hospitalisations de bébés. 35 000 hospitalisés bébés en France. C'est ouf, quoi. Voilà. 2500 en soins critiques. Donc, vous voyez que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ait trouvé un truc là-dessus. Ivory62, merci pour les 2 ans, c'est énorme. Et bon travail à toi. Une révolution donc permise par un anticorps monoclonal qui s'appelle le NIRCVIMAB. Qui est commercialisé sous le nom de Befortus par 2 labos qui sont Sanofi et AstraZeneca. Après avoir reçu une autorisation de mise sur le marché en Europe, parce que tu n'arrives pas comme ça, bien sûr. En fait, l'actualité, c'est l'autorisation de mise sur le marché en Europe, vous l'avez compris. Mais tiens, merci beaucoup pour le 25e mois, tu es au maximum. Approuvé par ailleurs en France par la Haute Autorité de Santé le 1er août. Il est recommandé pour qui? Pour tous les nourrissons. Je vois tellement bien cette nouvelle, c'est tellement horrible cette maladie pour les petits. Tous les nourrissons qui sont nés après la fin de la dernière saison épidémique, soit le 6 février 2023, donc c'est recommandé pour tous les nourrissons nés depuis le 6 février, c'est dit un pédiatre, le professeur Loïc de Pontual, c'est la première fois qu'une protection contre la broncholite peut être proposée à toute une génération d'enfants. Par ailleurs, ça c'est pour les bébés, mais les enfants plus grands qui ont des risques spécifiques comme une pathologie cardiaque ou respiratoire grave, eh bien, ils pourront aussi bénéficier de ce traitement. Le Befortus est une injection dans le muscle de la cuisse. Ses effets durent en moyenne 5 mois. Il ne s'agit pas d'un vaccin, vous savez, le vaccin qui a pour but d'immuniser en préparant le système immunitaire à une future rencontre avec le virus. En fait, on amène au nouveau-né directement les moyens de se défendre. Hein. On lui injecte donc directement des anticorps qui vont disparaître après au fil du temps. Les essais cliniques ont montré que le traitement est efficace pour réduire le nombre de cas, c'est-à-dire de 75%. Après, donc on partirait conditionnel sur une réduction du nombre de cas de 75% et sur une diminution des hospitalisations de 85%, donc ça semble efficace. De voyageurs, bonjour à toi, le John aussi. L'injection peu douloureuse, je demande à voir, faut demander aux principaux intéressés, faut demander au bébé. peu douloureuse peut provoquer des rougeurs locales passagères ou de la fièvre, mais n'a aucun effet indésirable grave rapporté dans les essais. L'objectif étant de protéger le bébé le plus tôt possible contre un virus très contagieux, le Befortu sera proposé à la naissance dans la maternité. Ah bah tiens, il y a Stazel qui dit « Mon petit a fait l'injection il y a une semaine, aucun souci. Okay. » Ben, je suis bien content pour vous. Et tu lui fais un bisou de notre part. Le docteur Julie Chastang rappelle que l'âge est le premier facteur de risque de forme sévère de la bronchiolite. Ça touche les tout petits. Avant 6 mois, le nourrisson a des voies respiratoires minuscules et il manque en fait de force musculaire pour se débarrasser de ses glaires. Et c'est pour ça que, alors c'est une méthode qui est parfois d'ailleurs sujette à polémique, mais que on amène parfois l'enfant chez le kiné pour des séances de, comment on appelle ça, c'est très spectaculaire là. On a l'impression qu'on est en train de couper en deux, d'arracher en deux l'enfant. C'est de kiné respiratoire, c'est ça? Non, pas clapping, non. C'est pas le clapping. Pourquoi vous dites clapping? Clapping, c'est au foot, ça. Ça s'appelle clapping? Non, clapping, c'est ça. Ça s'appelle comme ça? Mais moi, je pensais que c'était kiné respiratoire. Clapping? Ça alors? Voilà, je disais, c'est polémique. Offler me dit, on ne fait plus de kiné respiratoire chez les nourrissons depuis 2019, ça ne sert à rien. Voilà. Ça s'appelle vraiment du clapping? Tu vois? Alors, quand je dis débat, Vocre AM dit, interdire la kiné respiratoire, hérésie, mes jumeaux y ont droit, ça les a soulagés énormément, et mon dernier n'y a pas eu droit, et a galéré pendant des semaines. Vous voyez la polémique dont je vous parlais. Alors sachez que voilà, effectivement, il y a des débats sur le sujet. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas d'avis là-dessus. Alors, il faut reconnaître quand on n'a aucune légitimité pour trancher un sujet. Là, j'avoue, je ne sais pas. Alors, toi, là, je ne peux pas répondre à cette question de Blacky Nounours. Blacky Nounours qui est nourrisson, donc qui est un bébé qui est dans le chat, qui crie d'ailleurs très bien pour, je sais pas, tu as peut-être quelques semaines. Aucune faute, hein. Je lis ce message et là je pense qu'il faut saluer Blacky Nounours qui, je rappelle, est un enfant, est un bébé, est avec nous, s'intéresse à la qualité et écrit sans faute et écrit « Je suis nourrisson, je me demande s'il n'y a pas d'effet secondaire du genre perte de cheveux ». Écoute, là encore, je ne saurais répondre à ta question, mais pour les cheveux, je ne sais pas, mais félicitations pour l'orthographe, c'est assez impressionnant quand même. C'est fou quand même, on vit vraiment dans un monde incroyable. Ah, il a oublié un S. Ah ouais, voilà, donc c'est vraiment un bébé. C'est rien à me dire. En fait, il a fait une faute d'orthographe, il a oublié un S. Donc c'est un bébé. Ah, Harry Copla, qui est médecin, nous dit, je vous confirme que la méthode dont on parlait est contre-indiquée, mais pas formellement interdite. À mon avis, il y en a qui le font encore. Vous êtes impressionné par mon esprit d'à propos. Pas plus tard que samedi, au GP Explorer, j'ai vu un clapping. J'ai vu un TikToker, dont j'ai oublié le nom, très sympathique d'ailleurs, il m'a interviewé sur la conduite automobile. Je lui ai confié que j'avais roulé sans permis, qui est vraiment une très très bonne idée à faire quand on est une personne publique. Tellement, je suis débile. Un jour, j'ai conduit deux jours sans permis, bref. C'est abruti, ça me tient. Je l'ai dit à un TikToker, c'est très malin de ma part. Donc si je perds tous mes jobs et toutes mes dents dans pas longtemps, vous saurez pourquoi. Qu'il est con, bref. Et donc, j'ai vu ce TikToker lancer un clapping au GP Explorer. Donc, vous voyez, ça continue. Moi, ouais, je sais, je suis pas fier. J'étais jeune, j'étais un peu con. Voilà. Le droit d'être con, hein. Je suis toujours un petit peu, d'ailleurs. Mais moins jeune. Voilà. Mais je sais. Merci la cantine pour 12e mois d'abonnement. Closer qui va titrer immédiatement Samuel Etienne confesse rouler sans permis. Alors pour le coup, ils exagèrent pas, je l'ai vraiment confessé. Quel con. Ah, j'étais un peu con, voilà, c'est tout. Bon. Puis à une époque, je roulais vite en moto aussi. Ah là, je suis pas fier. Bon, voilà pour cette bonne nouvelle. Lionel, P2, merci beaucoup pour le 15e mois d'abonnement. L'électrique qui dit, t'inquiète Samuel, tu es tellement vieux qu'à prescription. Ouais, enfin bon, c'est quand même pas très malin. Pas très malin quand même. J'étais un peu con-con au guidon à une époque. Hein. J'étais pas le plus. J'étais pas le plus malin des motards. Hein. Ça roulait un peu vite. Hein. Oh là 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 là. Ouais. Non, c'était pas les bagnoles, moi, c'était plutôt les motos. Ouais, il y a Zenla qui dit, oh, il a écrasé les jeunes et alors la jeunesse. Alors, j'ai écrasé personne, mais je n'en suis pas fier pour autant. Ah, merci Casual, on ne veut pas se l'avouer, mais on est beaucoup à avoir été des jeunes cons. J'arrête et je parle de la France moche. La France moche, ça m'a fasciné de trouver ça ce matin. Dans les journaux, il n'y a pas que le Figaro qui en parle. Et là, je vous ai choisi l'article du Figaro parce qu'il est extrêmement clair. Le gouvernement s'attelle à embellir la France moche. C'est quoi la France moche? Alors, certains ont fait des propositions tout à l'heure qui n'étaient pas gentilles. Est-ce que la France moche, c'est le Nord? Est-ce que la France moche, c'est Créteil? Oh, c'est pas gentil, hein, les gens qui ont dit ça. Est-ce que la France... Alors là, il y a quelqu'un qui a dit, je veux pas te revoir. Est-ce que la France moche, c'est la Bretagne ou c'est Rennes? Alors, ça, c'est ban direct. Donc, vous me bannissez définitivement tous les gens qui mettent la Bretagne dans la France moche. Les Brest et tout ça, je veux pas le voir. Hein. Le Havre, je m'en fous, c'est pas en Bretagne. Faites ce que vous voulez. Dunkerque, je m'en fous, c'est pas en Bretagne. Ouais, faites ce que vous voulez, rien foutre. Stop Samuel, ça fait deux fois avec Créteil. Mais c'est pas moi qui dis que c'est moche, c'est vous. C'est pas ma faute. Très joli Créteil avec le lac là, tout ça. Alors la France moche, c'est quoi? Ben, en fait, c'est l'histoire de zone commerciale de périphérie, ça va pas du tout. Donc le gouvernement s'attelle à ce dossier et veut embellir la France moche. Olivia Grégoire et Christophe Béchu, qui sont deux ministres, présentent ce lundi leur plan pour transformer les zones commerciales de périphérie. C'est parti. Ça c'est parti. Si j'arrive à faire j'arrête à faire des bêtises avec mon écran. On y va. Go. Nous sommes dans la zone commerciale du Carrefour Pompadour à Créteil. C'est le début de l'article du Figaro. Il y a quelqu'un qui a de Créteil là, qui disait bon, ça c'est fini avec Créteil. Désolé, ça, enfin, ça ne fait que commencer. Je suis désolé. Hein. C'est le début de l'article, c'est pas moi. Hein. Bah oui, c'est drôle, c'est pas moi qui parle de Créteil, c'est le Figaro. C'est Marie Bartnik du Figaro. Donc nous sommes, désolé, hein, dans la zone commerciale du Carrefour Pompadour à Créteil. Mais, nous pourrions aussi être le long de la D19 à Bonneuil, les gens de Bonneuil, dans le chat. Quelques kilomètres plus loin, dans la périphérie de Blois, les gens de Blois dans le chat, des boîtes à chaussures, ces bâtiments aveugles en bardage, abritant Décathlon, Action, Besson, Boulanger, Centre Accor se succèdent le long de la Nationale 6 et dans les interstices laissés par un dense écheveau routier. À chaque enseigne, sa boîte, son entrée, son parking, construit à l'économie, peu ou pas d'arbres, mais des panneaux publicitaires et du bitume. Voilà. Donc c'est moche. Le Carrefour Pompadour, donc de Créteil, il y a Gine Comon qui travaille au Carrefour Pompadour, d'ailleurs, qui est avec nous, est une des quelques 1500 zones commerciales qui ont poussé comme des champignons à la périphérie des villes à partir des années 80, jusqu'à être pointée du doigt comme une incarnation de la France moche. Et à un moment, je ne sais plus qui a dit c'est la France moche, ce truc. Voilà. C'est vraiment si moche que ça? C'est vraiment si moche que ça? Il y a un an, Olivia Grégoire, donc, qui était le ministre du Commerce, a entrepris donc de les embellir. Elle présente aujourd'hui, actue, aux côtés de Christophe Béchu, ministre de Transition écologique et de la Cohésion des territoires, un plan ambitieux, nous dit-on, pour accélérer la transformation de ces zones, aussi décriées sur le plan urbanistique que fréquentées par leurs usagers. C'est-à-dire que tout le monde dit que c'est moche, mais il y a du monde. Ça me rappelle un débat sur le Doutzien, sur l'audience, mais peu importe. 70% de la population y fait ses courses. 70% de la population fait ses courses. 45% du budget shopping y est dépensé, contre 17% dans les centres-villes. Les politiques s'étaient jusqu'à présent attachés à soutenir les cœurs de ville, mais ils ne représentent qu'une minorité du commerce en France. Il est important donc de signifier aux habitants des zones périphériques qu'on s'intéresse aussi à leur cadre de vie. C'est le délégué général de la Fédération des acteurs du commerce et des territoires. Et on dit, puisqu'il y a tellement de gens qui vont acheter là-dedans, peut-être qu'on pourra peut-être un petit peu arranger. Hein? ce cadre. Les zones commerciales de périphérie sont développées dans le sillage des hypermarchés, bon ça je pense que vous le savez. Dans les années 70, la démocratisation de la voiture et du frigo permet pour la première fois aux clients d'aller faire leurs courses ailleurs dans les magasins de proximité. Des enseignes spécialisées dans l'habillement, dans l'ameublement, la décoration complètent l'offre alimentaire à partir des années 1980. Elles sont suivies dans la décennie suivante par des multiplex, des bowling, des restaurants, c'est la fête. Pendant longtemps, les autorités locales ont laissé faire, voire encouragé d'ailleurs le développement de ces zones malgré la laideur des espaces ainsi créés. L'ouverture d'un nouveau magasin en périphérie, c'est en effet la promesse de nouveaux emplois, de recettes fiscales, et puis développer sa propre zone commerciale, c'est éviter que les habitants aillent plus loin pour faire leurs courses à 10 km ou à 20 km. Bien qu'elles soient concurrencées par la montée en puissance des ventes en ligne, elles abritent une part encore aujourd'hui importante du développement commercial, notamment alimentaire, d'équipement de la maison, du bricolage. Les possibilités pour de telles activités de s'implanter en centre-ville sont très faibles, pour les raisons de surface, d'offres, de modèles économiques. Les commerçants y apprécient les loyers deux fois moins importants qu'en centre-ville, qui permettent de proposer des prix bas et un large choix. Les discounters en ont notamment fait, petite tablette qui revient, leur terrain d'élection. Les clients y trouvent aussi leur compte, hein, notamment quand tu peux par exemple dire à une cliente « Merci Ranger pour le quatrième mois d'abonnement, c'est adorable. » Quand tu peux visiter plusieurs magasins d'ameublement en même temps. Et Wazette qui dit « On s'en fout que ce soit moche, du moment que c'est fonctionnel. » Oui, c'est vrai que c'est, ouais, c'est Tesson qui a écrit là-dessus. Merci à mort. Ouais. Bon, je vais lire vos messages, je vous jure qu'il y a des articles, des commentaires intéressants. Alors, on parlait du côté pratique, il y a le parking, par exemple. Mais à Créteil comme ailleurs, je ne sais pas ce que la journaliste du Figaro a contre Créteil, je suis désolé. Comment on dit les Christ, il y a un truc comme ça. Les habitants de Créteil sont les Christ. Christ est mort, Christ est ressuscité. Non, c'est pas ça. Les Christoliens. Tout ça. Merci, ils ont dit. Christoliens. Non, les Christoliens, pas les crétins. Arrêtez avec ce bashing anti-crétail, là. Oh, ce n'est pas bien. Hein. Ici, on est sur un stream de qualité. Hein. On est sur un stream chill. Hein. On est là pour. C'est l'amour. Hein. C'est l'amour les uns les autres. Hein. Enfin, vous m'entendez. Hein. Ne déformez pas les propos. On est là. C'est un stream de love, hein, avec des ondes, comme les dauphins, comme l'expliquait Jean-Claude Van Damme, notre ami Jean-Claude Van Damme. Ici, on a des ondes d'amour, comme les dauphins. Voilà. Et on est pas là pour se moquer des cristoliens. Hein. Donc non. Voilà. Non. Mais à Créteil comme ailleurs, donc, l'ancienneté du lieu charrie sans doute désagrément. L'enchevêtrement routier s'est densifié, la ville s'est construite tout autour. Il y a des parkings, mais aussi des embouteillages. Pendant 50 ans, ces zones sont peu ou prou restées livrées à elles-mêmes. Bon, en gros, c'est bien pratique, vous faites ce que vous voulez. Hein. Même si c'est moche, c'est pas grave, comme le disait quelqu'un dans le chat, c'est pratique. Tout concourt aujourd'hui à leur transformation. D'abord, il y a la nécessité qui est inscrite dans la loi en France de diviser par deux l'artificialisation des sols en 10 ans. Alors du coup, ces zones commerciales, eh bien, c'est un précieux vivier de foncier où on pourrait construire d'autres choses, genre des logements, genre des bureaux. Les promoteurs, les élus imaginent la possibilité d'y construire, qu'est-ce que je disais ? Fatigant d'avoir raison. Des logements ou des bureaux qui cohabiteraient avec les commerces, perspective d'autant plus intéressante que les zones commerciales, jadis construites en périphérie, ont été rattrapées par la ville. Donc ça peut se vendre. Justement, c'est ça le problème. C'est que, du coup, ça peut être cher. Ces projets sont de longue haleine et coûteux. Une difficulté réside dans le fait qu'une zone commerciale abrite une multitude de propriétaires, qui sont propriétaires des cellules, comme on dit, du centre commercial. Et il faut les indemniser si on veut faire autre chose. Et or, il ne faut pas croire que ces boîtes à chaussures ne sont pas sans valeur. Ça vaut des millions, alors que pourtant, c'est dans un état qui est un peu déplorable. En tout cas, quand je vous dis qu'il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité en France, hein, les acteurs de cet univers-là se réjouissent de la mobilisation du gouvernement qui a réuni depuis un an collectivités, urbanistes, architectes, acteurs du commerce et foncières pour identifier les points de friction. C'est le premier gouvernement qui s'intéresse au sujet, dit un acteur. Enfin, pas un comédien, vous l'avez compris. C'est... Ok, j'allais redire le même paragraphe, donc c'est effectivement, la fatigue. Alors, je vous lis un petit peu, vous en pensez quoi ? Alors, est-ce que je lis le JDD parfois, me dit Benjouz ? Oh, ben, le JDD, tous les dimanches. L'ancien, le nouveau, je l'ai lu aussi. J'en ai lu trois numéros, et puis ça m'a suffi. Alors moi, je veux bien donner sa chance au produit. J'étais abonné en plus. Donc, je l'ai lu. Parce que je lis tout. Je lis tout, mais je ne vous lis pas tout. Vous voyez la petite nuance? Donc, ça m'a pas... Voilà. D'ailleurs, il y a un journal que je lis quotidiennement depuis... depuis des années maintenant. Et je crois que je vais arrêter mon abonnement parce que... je me rends compte que je vous en parle plus jamais. Parce que je sais pas, au niveau de la proposition, c'est... correspond pas à ce que je cherche. Et je vais peut-être plutôt m'abonner à L'Équipe, qui est le seul grand quotidien national auquel je suis pas abonné. Je vais lâcher un abonnement pour m'abonner à L'Équipe. Donc JDD, j'ai arrêté. D'ailleurs, ils auraient dû changer de nom parce que ça n'a rien à voir avec l'ancien. Alors, la France moche, c'est parti. Samuel, tu vas être obligé de venir faire un stream à Créteil pour te faire pardonner un petit peu. Faut pas exagérer quand même. Ah non, mais c'est une blague, Créteil, hein, c'est parce que c'est dans le Figaro. Hein. Oh, c'est fou ça. C'est fou, hein. On n'est pas sur Twitter. Hein. J'ai parlé de l'amour des dauphins et là vous me dites, ah oui, mais les dauphins en fait sont problématiques. Entre eux, c'est des chiens. Ils sont pas si gentils que ça. Arrêtez, laissez-moi croire en mes rêves. Laissez croire. Pff, à un moment, j'ai des un peu voilà. Ce monde est supportable, notamment grâce à tous ces petits animaux tout mignons là, les koalas, les dauphins, les taupes. Non, ouais, si les taupes ça va. Petite taupe, c'est chou. Donc arrêtez de me casser mes rêves quoi. Oui, le monde est cruel. Bah oui, ben bah, enfin, ça va quoi. Oui, arrêtez avec les dauphins. Alors je ne vais pas vous dire quel est le journal que je vais lâcher parce que je ne veux pas lui faire une publicité négative parce que je suis plein d'amour. Voilà. Alors, j'ai jamais dit ça. Il y a des supporters de Créteil dans le chat. Il y a Maximax qui dit les taupes c'est chou et Créteil c'est moche. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'un jour une taupe m'avait dit qu'elle trouvait que Créteil n'était pas super joli. Voilà. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, on verra ce qu'il y a dans ce plan qui est présenté aujourd'hui. Et maintenant, essai, transformation, plaquage. Je suis nul au rugby, mais j'adore regarder le rugby. C'est parti pour le mondial en France. Deux mois et 20 jours précisément du début à la fin de la compétition. Parce qu'il y a un petit peu de repos entre les matchs parce que paf, ça tamponne. Voilà. Et une entrée en lice réussie pour la France. On va en parler, mais pas seulement. L'entrée en lice aux airs de délice. Oh, j'avais pas vu petit travail sur la sonorité dans le monde là. Le monde c'est très factuel. Hein. Le monde c'est voilà, machin est mort. La crise touche telle entreprise. C'est sujet verbe complément. C'est vraiment très informatif. C'est un des charmes de ce journal d'ailleurs. On n'est pas là pour rigoler, tu vois. C'est une forme de sobriété, de rigueur, d'austérité même. Voilà. C'est papa, tu vois. Par exemple, il y a un truc très mignon là. Il y a un journaliste de Télérama qui très gentiment m'a fait une petite interview de moi. L'an dernier, j'ai fait zéro promo, j'ai refusé toutes les ITV parce que j'étais un peu débordé de partout. Et là, comme j'ai un peu plus de temps, j'en accepte de nouveau. Et là, par exemple, j'ai participé à un podcast. Fin de semaine là, une post-cato. En fait, le concept est génial. Donc le podcast. Hein. Je m'en suis rendu compte après que j'ai accepté. Le podcast, c'est les personnes de plus de 50 ans sont pas forcément des has-been. Hein. Elles peuvent se réinventer et voilà. c'est pas des vieux trucs achetés quoi. En fait, c'est pas écrit comme ça, mais c'est ça quoi. Et en fait, j'ai été invité parce que j'étais parce que j'avais 52 ans, quoi. Bon, donc j'ai expliqué tout ça à Twitch. Mais bon, c'était, bref, particulier. Et donc, regardez, il y a... Et ça, c'est un joli titre. Voilà. Donc, ça vient de sortir. On ne le lira pas parce que sur abonnement, je ne suis pas abonné. Il faut que je m'abonne. C'est là. Voilà. Donc, un article qui vient de sortir dans Télérama. Et le titre, c'est « À quoi joue donc Samuel Etienne sur Twitch ?» Le présentateur de Question pour un champion représente, qui a quitté la matinale de France Info en juin, c'est vrai, lance un troisième format sur sa chaîne Twitch, c'est vrai aussi, une émission consacrée aux jeux vidéo. Et bien le titre, à quoi joue donc Samuel Etienne sur Twitch? Eh bien j'ai envie de dire à The Witcher. Voilà. Non, la photo elle est super. Non, la photo c'est super. Elle est belle la photo. C'est une photo de libération d'ailleurs. Je crois que c'était Libé qui avait pris. Bref, je suis pas du tout en mode, je me la raconte, je suis pas du tout en mode qu'est-ce que je m'aime. Mais quel est ce beau gosse? Quel est ce bel homme? Quel est ce garçon au regard fier, au port altier, à l'imposante toison capillaire? Ah, mais que suis-je bête, c'est moi. Voilà, donc c'est une photo qui est ridicule, effectivement, c'est pas très grave, on s'en fout. Hein. Et donc, effectivement, Augustin Pietron Locatelli a fait un très bel article, enfin, je pense, parce que je pense que c'est une belle personne, et le titre est génial. Alors, pour le coup, il est très incitatif. À quoi joue donc Samuel sur Twitch? Double sens, à quoi je joue littéralement, parce que maintenant je suis un gros gamer, un roi du clavier souris, pas du tout, mais aussi à quoi je joue, mais pourquoi, pourquoi il semblerait, pas sûr, que je m'éloigne des médias traditionnels pour aller vers les nouveaux écrans, quoi. Pas mal, joli titre, j'ai hâte de lire l'article. Voilà. Tout ça pour vous dire que le monde, je reviens à mes moutons, eh bien c'est pas ça, c'est, voilà, il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de truc. Et là, je suis un peu surpris, il y a une petite... un petit jeu sur la musique des mots. Hein. L'entrée en lice aux airs de délice du 15 de France, hein, qui n'a pas glissé face aux néo-zélandais. Non, pas du tout. En vrai, ça va, c'est pas mal, quoi. Les Bleus ont battu 27-13 les All Blacks vendredi à Saint-Denis lors du match d'ouverture du mondial. On, ça c'est quoi ce pseudo Fessman? C'est la première fois que je te vois. C'est ton premier sub. D'ailleurs, je t'en remercie. Fessman. L'homme fesse. Fessman 01, parce qu'il y en a d'autres. Il y a 02, 03. J'adore Fessman. Sarah KGT, plus classique. Merci beaucoup pour ton soutien aussi. Fessman, donc. Ok, d'accord. Ok, vous le connaissez? Très intéressant. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Fessman me dit, on est nombreux. Let's go. Alors, c'est parti pour le rugby. Proposition de raid, non, j'ai pas vu. Bah en même temps je suis pas à la fin de mon stream hein. Donc qui me fait des propositions de raid alors qu'on a encore 6 heures de stream devant nous? Hein? Qui m'a proposé un raid? Je remonte. Je lis l'historique d'un viewer là qui pour voir la qualité de sa prose, son dernier message me réjouit. Tu es très vulgaire, papa Yukpuk là. Je vois que tu utilises des mots vulgaires. Hein. Oh là là, puis c'est souvent. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quelle est cette source de frustration? C'est pourquoi? Ah oui, je vois quand même, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Chasse-moi cette méchante colère. Chasse-moi cette colère de... Voilà. Remplis-toi d'âme. J'allais le battre. Non, Captain Mavien, non, il faut tendre la... Pas la joue, faut pas être débile, mais il faut tendre la main. Voilà. Voilà. Mets de l'huile dans tout ça. Voilà. C'est très agressif quand même. Voilà. Hein. C'est pas bien, voilà. Détends-toi, cherche, voilà, plonge à l'intérieur de toi, tel un dauphin, pour chercher un petit peu les sources de frustration, de qu'est-ce qui va pas, voilà. C'est souvent quand le verbe est un petit peu haut comme ça, quand on s'énerve vers l'extérieur, que ce soit le streamer, les autres viewers, la société, le monde entier à qui on en veut, c'est quelque part à l'intérieur, il y a des petits conflits qui sont pas réglés, c'est... Peut-être que ce que tu fais au quotidien ne te plaît pas, parce que tu n'as peut-être pas de plaisir dans ton activité aujourd'hui, ou dans ta vie amicale, ou sentimentale, ou sportive. Peut-être que ta foulée est un petit peu en train de se raccourcir, tu ne cours pas comme avant, l'âge te rattrape, c'est une petite source de frustration. Ça n'est pas grave. Tu es au bon endroit, ici on est là pour respirer. Voilà. Petit conseil dans le chat, il faut visiter Créteil. Voilà. Exactement. Voilà. Reste avec nous, mais apaise-moi un petit peu ce verbe là qui est un petit peu... Hein, s'il te plaît. Oh, putain. Adrinosaur, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Tonk, merci pour le prêt. Et Fessman, je te remercie encore. Allez, c'est parti pour le rugby. Voilà. Et puis, cher, comment Chouchou, vous me le plaquez là. Pardon. Il ne voulait pas manquer l'entrée en lice dans leur compétition. Pourtant, tout ce qui pouvait mal se passer pour le 15 de France lors des premières minutes du match d'ouverture de la Coupe du Monde, donc de vendredi soir contre les All Blacks, c'est passé. Un essai encaissé après 2 minutes de jeu seulement, hein, marqué par les Néo-Zélandais, suivi d'une pièce essentielle de l'échiquier tricolore, blessé 10 minutes plus tard. Bien, malgré ça, et une partition comptant son lot de ratures, et bien l'équipe de France masculine de rugby s'est imposée face à la Nouvelle-Zélande vendredi en Stade de France, 27-13 pour le premier match de poule. On sait tous qu'on est capable de mieux faire, a quand même dit le capitaine Antoine Dupont. Reste la satisfaction de devenir, attention, il y a un gros cocorico à venir, je vais vous faire péter le cocorico moi parce que je suis un dingue. Attention, vous êtes prêts pour le cocorico? Encore, encore, encore. Nous sommes devenus la première équipe de l'histoire du rugby à infliger une défaite aux All Blacks lors d'un match d'ouverture du mondial. Ils n'avaient jamais perdu. Voilà. Sur un premier match en poule, c'est nous qui l'avons fait et j'ai envie de dire... Le Monde dit aussi, après une cérémonie d'ouverture un brin suranné, bah, tirant fort sur la corde de la France d'antan et ses airs d'accordéon. Je n'ai pas vu cette cérémonie d'ouverture. J'ai vu des images, j'ai vu Jean Dujardin avec son Marcel, son t-shirt blanc, la petite moustache, tout ça. J'ai pas... C'était comment ? Le Monde dit un peu suranné. En langage, Le Monde, qui est un journal qui choisit avec attention ses mots, et ne rajoute pas, c'est un peu de la... C'était un peu de la merde, ils disent. Vous en pensez quoi ? Pas ouf l'ouverture, me dit Kyo. Le coq de la cérémonie phénoménale. Ah, c'est le monsieur qui se promenait avec sa main rouge comme ça pour faire le coq ? Étrange, me dit Ronan. Nul, me dit Mécabaron. Nul, me dit Arrobaz. Trop bien, Don Snow. Très français, Mepenred. Je ne sais pas ce qu'il faut penser. Affreux, cringe. Tu dois la regarder, elle était incroyable. Reaper, en vrai ou pas vrai ? En vrai, j'ai pas détesté. Ouais. Totalement pourri, me dit Will Cry. Rigolo, bon enfant, mais un peu confus. Cringe. Voilà. Je vais la voir en replay. Je vais la voir en replay. Le Monde a trouvé ça un petit peu suranné. Voilà. Rappelez qu'il y a eu des sifflets aussi quand le président Macron a pris la parole. Voilà. Et puis, rappelle le match. Donc, premier essai surprise un petit peu des Néo-Zélandais. Hein, très rapidement. Battu sèchement il y a 15 jours par l'Afrique du Sud en clôture de leur préparation, les Néo-Zélandais étaient revanchards. Hein. Et puis il y a eu la blessure de Julien Marchand, hein, qui est un des 4 du 15 de France, talonneur, qui a été blessé à la cuisse. Mais c'est coup dur, un premier essai très rapide néo-zélandais, la blessure de Marchand, eh bien, n'a pas troublé la sérénité des Bleus. À force de travailler spécifiquement à l'entraînement tous les scénarios imaginables, plus grand chose ne paraît, ça c'est très intéressant, surprendre les Bleus. On s'est resserré, on a respiré, on a pensé au coup d'envoi prochain sans tergiverser, sans s'affoler, explique le troisième ligne Charles Olivon au sujet des instants qui ont suivi justement ce premier essai des All Blacks. Donc c'est une des qualités de l'équipe de France qui semble, comment dire, dure à faire douter, quoi. Capable de se relancer même après un coup dur. Leur victoire, les Bleus l'ont acquise avec patience, avec méthode, estime Le Monde, avec discipline aussi, ça c'est important. Vendredi, les protégés de Sean Edwards, qui est l'entraîneur britannique de la défense bleue, hein, parce que c'est un Britannique qui entraîne les défenseurs bleus, n'ont été sanctionnés qu'à 4 reprises, ce qui est très faible. À l'inverse, 12 fautes sanctionnées par l'arbitre du côté des All Blacks. Et quand tu laisses des pénalités en route, Thomas Ramos te punit. On n'a pu que constater le demi-mêlé néo-zélandais Aaron Smith, le Toulousain Ramos qui joue les pénalités et qui a démontré son adresse dans le jeu au pied. 6 pénalités transformées ou réussies sur 8. Large vainqueur des All Blacks, les Bleus affichent leur satisfaction. La France a réussi son entrée, convient Fabien Galthié. Le scénario n'est pas parfait, mais le résultat l'est. Et les Français ont la sensation, parce qu'en gros, ils sont quasiment qualifiés pour l'écart là. Pardon, hein, mais vu le reste du groupe, sans faire injure aux autres équipes, en battant les All Blacks, en fait, on est quasiment sûr d'être qualifié pour l'écart. Les Français ont la sensation tenace d'en avoir largement sous la semelle. Ils auront près d'un mois et 3 rencontres de poule théoriquement abordables. Uruguay, Namibie, toujours se méfier des Italiens, Linacos, tu as raison. Et l'Italie, qui est a priori l'adversaire le plus redoutable à suivre dans la poule pour peaufiner. Cette patience, donc, est devenue un petit peu la marque de Français. On est bien d'accord que l'Italie, c'est peut-être le match piège. Alors, le Figaro a regardé le match avec beaucoup d'intérêt aussi et dit attention quand même. Hein. 15 de France et maintenant. Ok, ils ont parfaitement lancé leur Coupe du Monde. Hein, ils gagnent quand même contre les All Blacks. Mais tout n'est pas parfait. Alors, les plus, le caractère, la confiance qu'on évoquait. Voilà. Les Bleus n'ont jamais cédé à la panique, même après le premier essai néo-zélandais. De la discipline et du physique. Voilà. Donc, 4 pénalités concédées seulement, ça c'est génial. Et puis, le physique est là. L'eau préparation physique a été critiquée, puisqu'il y a eu des blessures, hein, vous le savez, qui a porté ses fruits dans la dernière demi-heure sous une chaleur accablante. Les All Blacks ont nettement baissé d'intensité quand les Bleus avaient encore de l'énergie pour faire basculer la rencontre. Et puis, autre point positif, 3 semaines maintenant tranquilles pour les Bleus, ça c'est vraiment intéressant. Les Bleus se sont enlevés toute pression, la qualification pour les quarts de finale est quasiment acquise, hein, je vous le disais. Le staff a déjà annoncé que l'équipe allait beaucoup tourner contre les modestes Uruguayens et Namibiens. Les doublures vont avoir du temps de jeu, les cadres vont pouvoir se reposer, se régénérer et parfaire leur préparation physique en vue de leur retour contre l'Italie. Donc on voit bien que c'est le match piège quand même de cette poule contre l'Italie. Ça c'est les plus. Rigueur, forme physique. Mental, et puis il y a des moins, la défense. Merci Incuyo, j'espère que je prononce bien, merci beaucoup pour le 6e abonnement. La défense craque encore. Ces trois matchs sont d'abord à venir l'occasion de resserrer les boulons en défense. Les Bleus ont raté 32 plaquages, quelqu'un me le disait dans le chat, bravo tout à l'heure. 32 plaquages face aux All Blacks, c'est beaucoup trop. Et ça ne fait que confirmer un mal apparu en début d'année. La muraille s'est fissurée, le 15 de France concède trop d'essais. Voilà. Alors en poule, ça peut pardonner, mais après, contre, je sais pas, moi, les Sud-Africains, par exemple, ça peut être très dangereux. Et puis, les Néo-Zélandais, les All Blacks d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a quelques années. On ne va pas se mentir. Merci The Voyageur pour les bits. Et merci Makizar pour le Prime. Et merci GG pour le 9e abonnement. Et merci Hugo. Merci Eden Master pour les bits. Merci beaucoup. Et donc, les All Blacks, pas au niveau. Battre les All Blacks, c'est certes toujours un exploit. La preuve, hein, ils n'avaient jamais perdu en phase de poule lors des 9 mondiaux précédents. Mais en toute honnêteté, écrit le Figaro, ce succès tricolore n'entrera pas dans la légende tant les All Blacks ont affiché un niveau bien en deçà de ce qu'ils étaient il y a encore 4 ou 5 ans. Voilà. Et puis après, pour finir, on va rendre hommage à un garçon que je trouve formidable, dont je suis très admiratif. Il s'appelle Mathieu Lartaud, qu'on a déjà reçu dans l'hebdo Étienne. Vous connaissez son histoire de fou. Et on va y revenir dans cet article du Monde. Javier, peut-être. Javier Chang, merci beaucoup pour l'abonnement offert à Lumière Soleil, qui est peut-être un habitant de Créteil, peut-être, non? Parce que je sais que là-bas, je crois qu'il y a un centre commercial qui s'appelle ou qui s'appelait Créteil Soleil. Je ne sais pas ce que j'ai avec Créteil aujourd'hui, je suis désolé. Je vous lis un petit peu, et puis on enchaîne et on termine avec Mathieu Lartaud. Et on termine sur une belle note, parce que c'est juste un grand monsieur, un monsieur édifiant, voilà, que j'espère recevoir à nouveau très bientôt ici même. Allez, je vous lis un petit peu. Alors John dit la défense craque mais ne concède pas de pénalité, donc c'est un mal pour un bien. Pas mal, ouais, c'est pas faux. Je vous lis. Ouais, vous êtes plusieurs à me dire qu'il faut se méfier des Italiens, et notamment Eden Blaster, qui est italien d'origine, me dis-tu. Il y a Wegle qui nous dit un joueur néo-zélandais a annoncé que le public jouait un rôle important parce qu'ils ont. Du mal à se comprendre. Ils ont eu du mal à se comprendre tellement il y avait du bruit. Formidable, les supporters français. Quand vous irez applaudir l'équipe de France, faites un maximum de bruit. Du coup, pour empêcher les Néo-Zélandais et autres de se comprendre. Du coup, mais les Français aussi, non? Je sais pas. Pas un spécialiste, mais. Bonne blague de Cyril en vrai. Hein, on parle de la baisse de niveau des All Blacks et donc ça fait commenter Cyril en mode les nouveaux Zélandais ne sont pas les anciens Zélandais. Non, ça c'est une alerte, la blague pourrie. Non, ce que je voulais faire, c'était plutôt ça. Les nouveaux Zélandais ne sont pas les anciens Zélandais. C'est validé. Il n'y a pas de faute. C'est parfait. C'est bravo. C'est bravo. Gaijin 101, merci pour le 9e mois d'abonnement. Et bonne rentrée à toi. Bonne rentrée à toi. Chapeau bas. Monsieur Mathieu Lartaud, journaliste, confrère, passionné de sport, spécialiste du rugby, commentateur pour France Télévisions des grands matchs de rugby. Et puis, une histoire de fou, puisque un cancer à dos, voilà, qui lui a niqué un genou. Et puis, il y a quelques mois, un nouveau cancer sur, je crois, l'autre genou et amputation de la jambe de Mathieu, qui est pourtant déjà de retour sur France Télévisions pour vivre sa passion, pour commenter les matchs. Et ça, c'est magnifique. Guy Brush, je ne sais pas pourquoi ce que j'ai fait de bien dans une autre vie, mais merci pour ces 5 abonnements offerts à la commune. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Mathieu, c'est juste dingue. Donc, rencontre entre Le Monde et Mathieu. Chaque semaine, l'époque paie son coup. Et a désormais donc Mathieu Lartaud une jambe en moins, fichu cancer, on va en parler, mais le journaliste sportif est debout et donne de la voix, et pas seulement pour commenter les matchs du mondial, mais aussi pour dénoncer les conditions de vie des personnes en situation de handicap en France. The Voyageur, merci pour les pits, c'est parti. Mathieu Lartaud a donc atteint son objectif, assister debout au Stade de France, au match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Il était là, il était debout. Avant de reprendre son poste à France Télévisions et de commenter 7 rencontres internationales, en commençant par l'Afrique du Sud, Écosse, dimanche 10 septembre, une victoire pour celui qui a été amputé de la jambe droite le 16 juin à la suite. Ah, c'est la même jambe? Vous êtes sûr que c'est la même jambe? C'est une récidive? Vous êtes sûr, j'avais lu l'inverse. J'avais lu que c'était sur l'autre genou. Sûr. Enfin, c'est pas plus important. C'est la même jambe? C'est la même jambe, ok. Je lui demanderai parce qu'il va venir dans pas longtemps. Mais moi, j'avais lu que c'était sur l'autre genou. On lui demandera, il va venir. Voodoo Cry, merci pour le 9e mois d'abonnement. Une victoire donc pour celui qui a été amputé de la jambe droite le 16 juin à la suite d'un cancer du genou. Debout, souriant, marchant grâce à une prothèse et des béquistes, ainsi que le journaliste nous apparaît donc début août, arpentant la place qui relie le centre de rééducation de Châtillon dans les Hauts-de-Seine où il a été hospitalisé, le bistrot Les Canailles, où il a donné rendez-vous aux journalistes du Monde et il dit « Je suis en grande forme comme rarement. J'ai commencé à marcher un mois et 6 jours après avoir été opéré », dit-il. Lui qui exalte les exploits sportifs des autres à l'écran avec une gourmandise communicative garde en toute chose un esprit compète. On m'a dit qu'il y avait 2 extraterrestres dans le centre de rééducation. Adama, patient amputé, arrivé un petit peu avant moi, qui m'a donné beaucoup de force, d'énergie, et moi, et maintenant on se tire la bourre avec Adama, dit-il. Il faut bien se trouver des raisons d'avancer, car, précise-t-il, c'est extrêmement énergivore de marcher avec une prothèse. À 16 ans, les médecins diagnostiquent à Mathieu Lartaud un synovialosarcome, cancer rarissime du genou. Je vous le disais, après une opération, une rechute, une autre opération, des mois d'hospitalisation et de chambre stérile, il s'en sort à 18 ans et demi avec une jambe rétie par une première prothèse qui est fixée entre le tibia et le fémur. Donc il a 18 ans, obligé d'arrêter le rugby, ce qui était son rêve, hein, de devenir joueur de rugby, et il décide de devenir journaliste. À 43 ans, il apprend la récidive, très agressive, à la fin de l'hiver. Il s'est rendu au centre de rééducation et a fixé ses conditions, être le 8 septembre au stade debout. Voilà. Donc là, on est quand là? À la fin de l'hiver. Voilà. Les médecins étaient un peu sceptiques, chimio, cicatrisation. Voilà. Avant de réussir son pari, grâce à la compétence du personnel soignant, tient-il à souligner de son entourage, on ne peut pas affronter ça tout seul. Plus inattendu, donc il y a eu le soutien de ses proches, de sa famille. T'inquiète Alexandra, on fera un petit horoscope, des médecins, mais il y a eu aussi lui qui les critiquait volontiers, beaucoup de soutien venant des réseaux sociaux. Voilà. Il a reçu des dizaines de milliers de messages, parmi eux 2 familles dont les enfants ont la même pathologie que lui. Je me suis senti utile, on a beaucoup échangé, il faut dire que moi j'ai fait les 3/4 de mon existence avec ça, quoi. Bonne nouvelle, sa prothèse lui confère une plus grande mobilité qu'avant, Donc je pense que vous avez raison. Je pense que ça doit être le même genou, une récidive sur le même genou, puisqu'il dit qu'il a une plus grande mobilité qu'avant. Voilà. Il dit par exemple, ce matin j'ai fait du vélo. J'avais pas fait de vélo depuis 30 ans et j'avais jamais fait de vélo avec mes enfants. Pour participer à sa manière à l'évolution des regards, Mathieu Lartaud a aussi décidé de médiatiser son handicap désormais. J'assume et il le faut, dit-il. En plus, je bosse dans le sport. On est à un an des Jeux Paralympiques et pour moi, ça fait sens. Dit-il, celui qui s'est soudain mis à voir le monde autrement. Je me suis pris en pleine tête les trottoirs qui ne sont pas droits, les retards en matière d'accessibilité dans les transports, d'accessibilité dans les lieux publics, d'accessibilité dans les restaurants. Même le soutien de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, reçu pendant sa convalescence, n'y fait rien. Ce manque de prise en compte du handicap dans la société française le fait sortir de ses gonds quand on fait des promesses, dit-il, qu'on fait de l'accessibilité un enjeu majeur. La moindre des choses, c'est de tenir ses engagements. Or, on est loin du compte. Si des gens s'éloignent de la politique, dit-il, c'est parce que tout est comme ça. Il est un peu en colère, Mathieu. Il est un peu en colère. Broubou06, merci pour les bits. Merci pour ton message. Très remonté, donc, il poursuit. Et pour revenir aux Jeux Paralympiques, j'ai peur que les autres nations vont dire de nous sur l'accueil en France, sur l'organisation en l'état, en matière d'accessibilité en personne en situation de handicap, on ne peut pas recevoir une bonne note. Alors pour le mondial de rugby, justement, quelle note? Alors là, il est très heureux, il dit « on va gagner, je suis catégorique voilà. ». Alors souvent d'ailleurs, il a été reproché, explique Le Monde à Mathieu Lartaud, d'avoir été trop critique envers les Bleus. Mais est-ce vraiment de sa faute? De 2011 à 2019, il est au micro, effectivement, le porte-voix de la pire période du rugby français. Un festival de sortie de route, de scénario catastrophe. En cas de défaite, le public a l'impression de passer un mauvais moment. Et le commentateur est associé à ce sentiment. J'ai toujours aimé l'équipe de France, dit-il, mais elle m'a déçu beaucoup, comme plein de supporters d'ailleurs. Et depuis 4 ans, bien, le journaliste commente des victoires à 80%, écrit Cocorico. Là, on est devenu vecteur d'émotion et de plaisir. D'autres évolutions, par contre, sont plus difficiles à avaler. TF1 retransmet la majorité des rencontres du mondial, dont le match d'ouverture, dont la finale. C'est-à-dire que Mathieu Lartaud ne pourra pas commenter la finale. Donc, pour un passionné comme lui, c'est compliqué. La France Télévisions, qui est historiquement la chaîne du rugby tricolore, n'a que 10 matchs. Et il dit, bien sûr, je suis frustré. Je ne vais pas faire de langue de bois. Cette année, la frustration est exacerbée par le fait que les Bleus pourront en plus devenir, pour la première fois de leur histoire, champions du monde. Alors oui, égoïstement, ça me fera bizarre de ne pas commenter la finale. Quand on fait ce métier, on a envie de vivre ça, de le partager, de laisser une trace. Le commentaire fait l'histoire, dit-il. Avant de tempérer, comme rattrapé par la réalité, je ne veux pas dramatiser, mais participer. Et être au micro de France Télévisions pour cette Coupe du Monde, ce n'était déjà peut-être pas réalisable pour moi il y a 5 mois. Je vais donc vivre l'événement pleinement. Voilà. Grand bonhomme, Mathieu Lartaud. J'espère le recevoir à nouveau. Je ne veux pas trop l'embêter, il est occupé. Dans l'hebdo Étienne, ou peut-être qu'on se fera. Peut-être qu'on se fera un petit truc, un petit stream sur la Coupe du Monde de rugby à un moment. Voilà. Mathieu, chapeau, quoi. Grand bonhomme. Voilà. Bon, je pensais déjà beaucoup de bien de lui avant qu'il ait cet énorme obstacle à franchir, mais là, c'est encore plus. Waouh. Voilà. Allez, je vous lis un petit peu, et puis on va faire un petit horoscope. Pourquoi il ne commente pas la finale? Parce que la finale est sur TF1 Redinen et que Mathieu est un journaliste du service des sports de France Télévisions. Allez, je vous lis. Ouais, courage énorme, volonté béton, dit Céline Live, mais tellement. Tellement. Inspirant. Alors sinon Sam, tu achètes les droits pour Twitch si la France est en finale et tu l'invites pour commenter. Mimich a raison. Si jamais la France est qualifiée pour la finale, j'appelle TF1 et je leur dis voilà, je vais vous acheter les droits parce que Twitch veut voir ce match et veut entendre Mathieu Lartaud aux commentaires. Voilà. Voilà, avec un ton très déterminé. Et ils vont dire, pas de problème, monsieur Étienne. Et là, je vais dire, putain, je suis vraiment un champion. Et ils vont me dire le prix. Et là, je vous rappelle. Voilà. Donc là, ou alors, je lance une petite cagnotte. Voilà. Bonjour, j'ai besoin de. Je sais pas combien. Pour un frère, en vrai, pour Internet, ce serait moins cher. quand j'ai payé les droits du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle pour pouvoir le diffuser sur Twitch, c'était pas si cher en vrai. C'était genre 1500 balles. Donc voilà. Il cagnotte. Ce serait marrant. Non, je dirais, je sais pas moi, 5000, 10 000, je sais pas. 1000 balles. Il faudrait faire une cagnotte quoi. Petite cagnotte. Bon, ce serait drôle. Alors, il peut commenter la finale sur Twitch, me demande Biscuit. Pas si tu mets les images. Je pense qu'il peut commenter la finale sur Twitch si on met pas les images. Hein, ça, il n'y a pas de problème. C'est des images qui appartiennent à TF1. Donc, on pourrait imaginer un stream où on vous invite à regarder, c'est pas très cool pour TF1, mais le match sur TF1 de Mute TF1 et d'écouter les commentaires de Mathieu Lartaud. Voilà. Chez Samuel Etienne. Voilà. Et on mute Samuel Etienne aussi parce que Samuel Etienne n'a rien à dire sur le rugby et on écoute surtout Mathieu, quoi. Oui, ça c'est possible. Voilà, Rive le fait comme, voilà, on me dit que Rive Enzi fait comme ça. Bon, il n'est pas le seul parce qu'il y a des gens en télé qui font ça aussi. Voilà, ça c'est voilà. Voilà, ça c'est possible ça. Ça peut. Ou alors on achète les droits à TF1, mais là faut une cagnotte. Vlachand, merci beaucoup pour le cinquième mois d'abonnement. Merci Niouk pour les bits et horoscope. Vous l'avez pas vu venir. Voilà, je suis parti. Hop, petit contre-pied, paf. Merci au paf. Et horoscope, voilà. Les nouvelles, je vous explique. On a un jeu débile ici. Quand on va aller voir le Parisien. Quand arrive la page du Parisien, voilà. Eh bien, je dis le mot magique horoscope et la plus rapide à me donner son signe astrologique sans faute d'orthographe dans le chat, je lui lis son signe, on n'y croit pas, ça n'est pas scientifique, mais ça nous fait marrer, c'est juste là. Petite capture d'écran en direct live, ici, tchouk, 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 et je dis ok, et je vais dans photo, tchouk, et elle est là, haha, magique. Qui a gagné? Dans mon chat, et les modos vont me le confirmer, c'est Verseau. Florian, et les modos qui sont, vous êtes des machines, merci Captain McBernick. Impeccable, merci à toi. Et je remercie d'ailleurs Captain Mabernick, et Broubo06, et Julo18, et VOD Samuel, l'ami Mathieu de la chaîne, et l'ami Nightbot. Voilà, et merci beaucoup d'être là, merci de votre soutien. Donc c'est Verseau ? C'est Verseau, c'est parti, Verseau. Verseau. Et promis, demain, je ferai recto. Putain, Cyril a fait la même blague que moi au même moment. C'est drôle. C'est drôle. Ok, donc demain recto, aujourd'hui verso. Mais je suis pas le seul à faire cette blague qui est nulle d'ailleurs. Verso, 1, cœur, c'est le moment d'exprimer votre point de vue sur un sujet délicat. Ah. Sujet délicat à la maison, tu vois, genre un truc, petit. C'est le moment, voilà, c'est le moment d'exprimer. Ok, verso, réussite, votre réalisme rend votre jugement fiable. Posez vos jalons sans crainte de vous tromper. Ça veut dire ça. Vas-y quoi. Forme, la lassitude se fait sentir. C'est pas faux. J'ai, depuis le début de ce stream, je note dans les commentaires que les Verseaux sont un peu mous, en fait. Les Verseaux, je vous ai trouvé un petit peu mollasson, en fait, aujourd'hui. Voilà. Dans le commentaire, pas très incisif. Un petit peu, toujours un petit temps de retard, pas totalement à côté de la plaque, mais pas vraiment dessus non plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai dormi 2 heures, je suis épuisé, mais vous m'avez donné la force de faire ce stream, un grand merci. On va faire un raid dans un instant. J'enchaîne avec un rendez-vous chez l'Ophtalmo. Je sais pas si vous faites ça vous aussi à la rentrée en général. On fait la tournée des popotes. Voilà, pour faire les oreilles, le... Qu'est-ce que c'est ? Hugo ! Oh Hugo ! Attendez. Il y a Hugo qui vient d'offrir 10 abonnements à la commu. Oh ! Hugo, bon, je remets la tablette. Parce que Hugo, il m'a dit balance, s'il te plaît. J'ai dit bah non, non, on va pas lire balance, c'est Verso qui a gagné. Mais bon, 10 subs offerts à la commu, balance. On est d'accord. On est d'accord. Incorruptible, Samuel Etienne. Incorruptible. Incorruptible. Voilà. Je rappelle que cette séquence horoscope dans ce stream est donc sponsorisée par Hugo. Voilà. Voilà. Hashtag publicité, hashtag collaboration commerciale. C'est parti pour balance. Cœur, la passion est toujours au rendez-vous. Super. Balance, super cœur. Super. Réussite, il est parfois difficile de faire admettre ses choix, mais est-ce indispensable? Pas du tout, effectivement. Tu n'es pas obligé de recevoir l'assentiment de tout le monde, je suis assez d'accord. Forme, vous mangez un peu n'importe quoi. Hugo, il faut pas manger n'importe quoi. Les balances, vous pouvez tous remercier Hugo parce que voilà. Voilà. Donc là, j'ai été totalement corruptible, mais bon, à un moment. Hein. Bon, Hugo, c'est aussi un super habitué et c'est un des soutiens de cette chaîne. C'est pas faux, je mange trop en ce moment, vous voyez. C'est scientifique, c'est scientifique. Les scientifiques. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci. Voilà. On est là tous les jours. Voilà. Parce qu'on n'est pas en question pour un champion en ce moment. Ça veut dire que demain, on est là demain matin. On est là mercredi matin. On est là jeudi matin. Peut-être même qu'on serait là vendredi matin. Vendredi soir, l'hebdo Étienne. Dimanche soir, ça me plaît. Voilà. Et puis un petit coup d'ophtalmo là. Après, il faut que j'aille chercher ma voiture qui était. J'ai une vie de fou. Qui était. Qu'est-ce qui m'a envoyé ce mot? Qui m'ont. Qui est chez le garage. Après, j'ai rendez-vous avec la prof de Malo pour la rentrée. Il paraît qu'elle est super. Mon épouse m'a dit qu'elle était top, 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 top. Et puis là, on fait un petit raid. Voilà. Grosse journée. Voilà. Puis après, il faut que je dorme un petit peu. Ravière, merci beaucoup pour ton message. Ravière, Ravière, j'espère que je commence bien en tout cas. Mais bon, merci beaucoup. On fait un petit raid, les amis. Ouais, je veux déjà des propals. Ok, je vous mets 2 minutes de musique. 2 minutes. De musique, 2 minutes de musique, 2 minutes de pub, et on se retrouve dans 2 minutes pour un raid. On va aller découvrir le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. C'est toujours des petits moments sympas. J'ai envie de vous mettre ça. J'aime bien cette chanson. À tout de suite. 2 minutes chrono. Ciao! Mais sinon, on va où? Alors? J'ai trouvé. Ah Ok. J'ai trouvé ces Lumière Soleil, je crois, qui a dépensé plein de petits points de chaîne tout à l'heure pour nous proposer, nous faire une proposition de raid. Et donc c'est fait, c'est chargé, on va voir Abeille 23. Voilà, Lumière Soleil m'a convaincu avec plein de gentils mots sur le travail de ce streamer, c'est un garçon, le raid est en train de charger. On se retrouve demain, 8h30, 8h45, 9h, voilà, j'aurai un peu plus dormi. Et merci de m'avoir accompagné ce matin, c'était bien agréable. Voilà. Passez une belle journée, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Faites un joli coucou à Abeille 23 qui est en stream actuellement. Et je vous dis à demain. Merci pour tout, vraiment. Ciao ciao et merci du soutien.